Bonsoir tout le monde, bienvenue dans ce nouveau Comics Office spécial consacré à nouveau à un titre DC, enfin ce coup-ci à plusieurs titres, puisque après la mini-série Three Jokers que nous avons chroniqué il y a quelques temps, cette fois-ci on s'attaque à un plus gros morceau, à savoir l'événement Future State qui vient de s'achever en VO. On va également traiter à la fin de cette émission des One Shot Generations qui sont sortis en parallèle des différentes mini-séries Future State, ainsi que du One Shot Infinite Frontier. Et pour m'accompagner ce soir, pas de Bunny ni de Jonathan. Malheureusement, ils sont perdus chacun de leur côté dans leur flux temporel, mais ça ne m'empêchera pas de jouer les Marty McFly accompagné d'un Doc. Et dans ce rôle, on accueille à nouveau notre ami le Docteur Ben Wave.
Nom de Zeus, Marty, tu es de retour du futur et nous allons devoir maintenant en parler à tous tes formidables auditeurs.
Ah, c'est beau alors, c'est beau, on n'aura pas des imitations du Caïd ce soir, on aura des imitations de presque Doc Brown, c'est bien.
C'est Marty McMarty et Doc Ben Wave qui vous parlent de Future State ce soir. On dirait presque une intro d'un type qui passe du rap d'ailleurs, c'est très rigolo.
C'est notre côté un peu radio libre hein, d'ailleurs.
C'est ça.
Vu qu'on est des habitués de toute façon du hors-sujet qui va dans tous les sens. J'espère à ce sujet que vous avez écouté notre nouvelle émission, le Comics First, où on est quand même parti de nos débuts de lecteurs de comics pour parler des feux de l'amour. Donc comme quoi, à cœur vaillant, rien n'est impossible.
Oui, mais derrière, j'étais assez déçu, vous, fans de la continuité, personne n'a évoqué les trois vasectomies de Victor Newman. Et il en a eu trois, en effet.
Il y a un magnifique article Slate là-dessus qui parle de comment Victor Newman a réussi à louper deux fois de suite une vasectomie. Enfin, et voilà. On est déjà en train de faire une digression. Alors que pourtant, le sujet de ce soir nous intéresse plutôt. On n'est pas là du tout pour bâcher. Évidemment, on va dire ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé. Il y aura du négatif et du positif. On verra bien en fin d'émission lequel des deux l'emporte. Mais globalement, c'est quand même une émission où on va parler de pas mal de choses qui nous ont plu.
Tout à fait.
Donc si vous nous écoutez, c'est que sans doute vous lisez en VO. Si vous lisez exclusivement en VF, ça va spoiler. Donc à ce moment-là, attendez peut-être que ce soit sorti chez Urban d'ici plus ou moins un an pour vous lancer dans cette émission. On ne va pas en détail raconter ce qui se passe dans chaque récit, sinon on va y passer des heures, c'est pas spécialement intéressant. On va plutôt évoquer globalement certains des récits, uniquement ceux sur lesquels on a envie de dire quelque chose, et on spoilera quand ce sera nécessaire. Mais le but, c'est avant tout de dresser un bilan global, de dire voilà quelles sont les forces et les faiblesses de cet événement qui s'est déroulé uniquement sur 2 mois. Mais alors cet événement, il a une genèse quand même plutôt compliqué, n'est-ce pas Ben ?
Ah tout à fait, Future State, ça donne un peu l'impression que c'est le machin qui est l'héritage d'une initiative abandonnée et qui a provoqué mine de rien le débarquement de Dan Didio, qui a régné sur quasiment 2 décennies de DC Comics. C'est aussi le machin qui fait office de pseudo-conclusion à Dark Knight Death Metal, et enfin le machin qui fait prélude à Infinite Frontier, et qui, on le verra, commence à avoir, non pas des répercussions, mais des préludes dans les nouveaux titres. C'est un machin, tous les machins ne sont pas forcément bons, tous ne sont pas mauvais, mais derrière, oui, Future State, c'est une anomalie très surprenante sur laquelle il me semble intéressant de revenir, en fait.
Anomalie est le bon mot, puisqu'on parle ici d'un futur possible de l'univers DC, hein, d'un état futur qui pourrait arriver. Alors bon, on vous dit, voilà, histoire de 2 mois qui se passe en marge de la continuité, on pense quand même assez rapidement à Convergence. On vous rassure, c'est largement au-dessus. Ça fait aussi un petit peu penser à Future's End. Peut-être qu'on y reviendra au cours de notre développement. Donc DC n'est pas tout à fait à son premier coup de ce type-là. Ils ont un peu une expérience là-dessus. Alors les expériences n'ont pas toujours été très heureuses par le passé. Mais on n'est pas totalement dans un terrain inconnu pour eux. Même si ils cultivent quand même, encore une fois, l'impression, et puis on en a même des preuves, hein, que ça a été fait moins dans l'arrache que d'autres choses précédentes, mais c'est quand même un gros bricolage, puisque Future State, c'est ni plus ni moins que une réutilisation de nombreux concepts qui a été créé pour ce qu'on appelait la 5G. Est-ce que tu as envie peut-être de présenter ce que c'est la 5G ?
Oui, c'est le mal, selon tous ceux qui ont peur de l'augmentation du débit internet. Non, pardon, c'était un parallèle de très mauvais goût. Donc oui, la 5G, qu'est-ce que c'est? La 5G, ça a été un projet porté en sous-main par Dan Didio. Donc Dan Didio, c'est qui? C'était en fait le responsable éditorial de DC Comics ces 20 dernières années, grosso modo. On lui doit l'essentiel des grands chambardements et de l'essentiel en fait du DC Comics contemporain, hein, d'Identity Crisis à Infinite Crisis, avec après un peu Final Crisis, mais également le story arc Flashpoint qui est devenu un grand crossover par Geoff Johns. Les fameux New 52 connus en France comme la DC Renaissance, DCU, Rebirth, etc. Dan Didio, c'est quelqu'un qui est très critiqué, critiquable aussi, même s'il a fait beaucoup de choses. Et c'était quelqu'un qui, à un moment, s'est dit, il faut en fait renouveler les super-héros. Il faut les renouveler sur, bon, on va dire, les concepts, mais surtout les personnages. Il est parti du principe, en fait, que dans l'univers DC, il y avait eu pour l'instant 4 générations, on va dire, de personnages, donc ceux du Golden Age. Donc Golden Age, hein, c'est on va dire le Green Lantern Alan Scott, le Flash Jay Garrick, Wildcat.
La JSA, quoi.
Voilà, exactement. Le Silver Age, du coup là en fait on arrive au nouveau Green Lantern, Hal Jordan, au nouveau Flash, Barry Allen, nouvel Atom, Ray Palmer, nouvel Hawkman aussi, hein, parce qu'on les oublie hein, dans tout cela. Superman, Batman et Wonder Woman sont toujours là, mais c'est à ce moment-là qu'on a commencé à parler de Terre parallèle, Terre 1, Terre 2. Suite à ça, selon Dan Didio, il y a eu une troisième génération, c'était celle à peu près, on va dire, des années 80, les New Teen Titans, la fameuse période dorée hein, de l'équipe avec Marv Wolfman et George Perez, avec donc les Starfire, les Beast Boy, la reprise de Robin devenant Nightwing, Wonder Girl devenant Troya par la suite, etc. Et après, on va dire les Teen Titans des années 2000, qui étaient avant la Young Justice, avec donc Tim Drake en Robin, Bart Allen en Impulse, Connor Kent en Superboy, Cassandra Sandsmark en Wonder Girl, etc. Donc là, selon lui, on avait 4 générations de héros, avec plusieurs fois des moments où certains se sont échangés les costumes, et pour lui, il était venu le moment d'une cinquième génération pour prendre le pouvoir, on va dire, parce que lui, il se rappelait également que dans les années 90, ben, du coup, Hal Jordan avait été remplacé par Kyle Rayner également, que Flash avait été remplacé du coup par... Barry Allen avait été remplacé par Wally West, meilleure période du coup personnage, Team Wally Forever, les vrais savent.
On va en reparler de ça, je crois.
Green Arrow même avait été remplacé par son fils Connor Hawke.
Bien sûr.
Bref, pour lui, il se disait qu'il fallait revenir à ça. Et il avait en fait décidé de renouveler entièrement ses personnages. Donc l'idée de base, et c'était assumé, et ça a fait grand bruit, c'était exit Bruce Wayne en Batman, exit Clark Kent en Superman, et exit Diana Prince en Wonder Woman avec des nouveaux personnages. Le problème, c'est que du coup, ça n'a pas plu au niveau de DC Comics, c'est que ça a provoqué son débarquement dans des conditions qui sont toujours obscures.
Est-ce que c'est que ça, ou est-ce qu'il y a peut-être, ouais, peut-être qu'il y a d'autres raisons, comme tu dis, il y a peut-être des raisons obscures.
Ouais, je pense que ça a été d'une part la goutte d'eau et de l'autre l'argument massue pour le faire partir. Après, c'est quelqu'un qui a énormément apporté, mais qui, à mon avis, c'est pas si grave qu'on l'enlève maintenant.
Il faut bien renouveler le sang.
Exactement. 20 ans dessus chez DC, c'est quand même beaucoup. Le seul problème, c'est qu'en fait, il y a eu deux problèmes. Le premier, c'est que Dan Didio avait déjà fait travailler de nombreux artistes sur la 5G, donc il y avait déjà des planches et déjà des auteurs engagés. On pense à John Ridley, le scénariste oscarisé pour le film 12 Years a Slave, qui du coup travaillait depuis des années, on le savait, sur un Batman afro-américain. Des planches avaient déjà été préparées, l'auteur avait été engagé. Et surtout, en fait, on s'est rendu compte que, oh bah là, dis donc, on enlève Dan Didio, mais en fait, il n'y a plus personne pour maîtriser la barque. Dans le sens où Jim Lee, en fait, son partenaire était essentiellement, a priori, un diplomate, quelqu'un qui aide à voir les artistes, à gérer les artistes, à créer les contacts, et pas quelqu'un avec une vision à long terme. Donc en fait, Future State, c'est quoi? C'est en fait le projet d'urgence pour DC Comics pour se remettre après le débarquement de Dan Didio, la fin de Dark Knights Death Metal sur lequel on va revenir. C'est 2 mois pour gagner un peu d'air, pour souffler un peu, pour voir l'avenir, pour construire un peu quelque chose, pour refourguer du matériel déjà préparé et en même temps préparer des nouvelles séries, on va y revenir. Et c'est un peu ça. Donc derrière, ça rappelle énormément Convergence, Convergence dont tu as parlé avant, Convergence qui en fait était 2 mois aussi de mini-séries en 2 numéros, tiens, comme Future State, et qui en fait visait à combler les 2 mois de déménagement de DC Comics dont les bureaux passaient... de la côte ouest à la côte est, ou l'inverse, je ne sais plus. Bah, un peu comme là, en fait.
D'est vers l'ouest, ouais, ils quittaient New York, ils laissaient New York à Marvel, et eux, ils allaient sur la côte ouest pour vraiment se rapprocher des studios ciné.
Bah voilà, mais du coup, derrière, c'est un peu ça l'idée, c'est se donner 2 mois d'oxygène, où, en fait, derrière, on voit ce que ça... on voit ce qui peut plaire un peu ou pas, et on verra. Et mine de rien, de Convergence, on a gardé le Superman de Danger Jones et excusez-moi pour mon accent, hein, Jurgens.
T'inquiète pas, entre le pauvre Dan Didio qui devient Dan Digno depuis le début ou Diana que tu appelais Wonderman, t'inquiète pas.
Wonderman, oh là là, on
On
ne
voit
sait
qu'il est
jamais, hein.
tard, hein.
On voit qu'il est tard, en effet. Non, du coup, on avait hérité de Convergence le Superman classique, de avant New 52 et DC, DC Renaissance, avec Lois qui était enceinte. Après, on a eu une maxi-série de Jurgens et Illy Weeks, et après, il y a eu Peter Tomasi qui a repris le personnage pour le réintégrer. Et là aussi, en fait, c'est un peu l'idée de lancer des choses, de voir un peu ce qui fonctionne, de le garder, mais bon, après, vu que c'est des futurs possibles ou des réalités possibles, bah, si ça marche pas, c'est pas grave, hein, on aura eu 2 mois d'oxygène.
Tout à fait. Alors, j'ai plusieurs choses sur lesquelles je veux revenir. Déjà, oui, on a le départ de Dan Didio. On a aussi Geoff Jones qui, clairement, là, lui aussi est très en retrait, hein, maintenant des comics. Geoff Jones, donc, qui était le scénariste star de DC, qui a fait notamment Infinite Crisis, qui récemment a fait Doomsday Clock. On reviendra aussi tout à l'heure parce que on voit par rapport aux choses qui étaient révélées sur le multivers dans Doomsday Clock, tout n'est pas vraiment pris en compte par Scott Snyder dans Dark Knights Metal. On a un peu d'ailleurs l'impression que ces deux scénaristes, depuis quelques années, depuis les New 52, chacun de son côté, essaie un peu de se positionner en architecte de l'univers DC. Sauf qu'à la fin, bah, il ne peut en rester qu'un, évidemment.
Oui, et c'est Scott McCloud du clan des Batman Kiri qui a gagné la bataille.
Exactement. Et en fait, aussi, tu parlais du déménagement de DC sur la côte ouest qui avait donné Convergence. Alors, là, on sait aussi que le but un peu de Future State, c'est finalement de déconstruire à la fin la continuité, de faire en sorte qu'on ait une continuité plus fluide, qu'on regarde moins là-dessus. Et il y a des rumeurs qui, maintenant, parlent d'un autre chamboulement. Alors, il y a quelques années, on avait le déménagement. C'est des grosses rumeurs, hein. Ça vaut ce que ça vaut. Mais comme quoi, DC serait peut-être en passe de louer même certains personnages. Enfin, il y a des rumeurs un peu bizarres qui dressent un tableau un peu sombre de...
Oui, je pense qu'en fait c'est tout simplement l'illustration du fait que les décideurs, les vrais propriétaires de DC, hein, qui sont Warner au-dessus, mais au-dessus AT&T, qui est un très grand conglomérat, qui est désormais propriétaire, je pense qu'en fait ils ont débarqué Dan Didio, mais ils se sont pas rendu compte qu'il y avait personne derrière. Et du coup là maintenant, il y a une là ils reconstruisent. Alors après derrière, il y a toujours plein plein de rumeurs. On est en 2021, c'est Internet,
Oui, voilà.
il y a 20 000 rumeurs qui sont infondées. Je pense que Future State a été un bricolage, et c'est pour ça qu'on est revenu sur des choses qui ont fonctionné avant. On est vraiment sur un autre convergence, sauf que ici on est sur l'idée d'un Future State, d'un futur End, c'est-à-dire sur le futur. Par contre, là où Futures End, pardon, c'était sur un seul futur, la spécificité de Future State, mais on va y revenir. C'est qu'on est sur plusieurs futurs, on est sur plusieurs chronologies. On a des sagas en 2025, on a des sagas en 2050, on a des sagas en je ne sais plus combien, que l'an 82 000, un truc
Oui,
comme ça.
ça va très loin, oui.
La fin des temps, donc ça va très très
On a
loin.
eu une frise chrono, oui.
Oui, tout à fait, que DC ne respectait même pas.
Qu'on mettra d'ailleurs dans l'article, hein. Il y a plein de choses qu'on mettra dans l'article. Tu dis qu'on a de multiples futurs, mais qui se suivent tous. Ils sont quand même tous censés se suivre.
Alors, ils sont tous censés se suivre, certains se suivent très bien, d'autres se suivent moins bien.
Oh là là, je vois pas du tout de quel titre tu parles, dis donc.
Non, non, pas du tout, on va y revenir. Sur le coup, Future State, pour un machin bricolé, comme je disais avant, bricolage comme tu le disais, machin comme je le disais, ça se tient quand même plutôt pas mal. Et ça a surtout le grand avantage de ne pas être très lié à Dark Knight's Death Metal, qui est son excuse officieuse. Alors Dark Knight Death Metal, on va pas y revenir plus qu'il n'en faut. Il faut juste se dire en fait que c'est la suite de Dark Knight's Metal, que j'avais personnellement beaucoup aimé. Donc on peut pas dire que je suis un anti-Snyder. J'ai beaucoup aimé Dark Knight's Metal, j'ai beaucoup aimé cette Justice League. Par contre, Dark Knight's Death Metal, j'ai détesté parce que c'est un gloubi-boulga. Horriblement long, horriblement complexe, avec des rebondissements sans fin et très lassants, où la ré réalité est en danger, où le multivers est en danger. Bref, une grosse crise cosmique comme DC sait en faire, mais dans la pire illustration.
Mais avec les obsessions de Snyder en plus dedans, quoi.
Oui, puis c'est vraiment lassant. Bref, tout ça pour dire qu'à la fin de Death Metal, la réalité est sauvée, mais elle est fracturée, et c'est pour ça, en fait, qu'un personnage qu'on voit dans Infinite Frontier Zero a des visions de ce futur qu'on voit dans Future State.
Ouais, et alors en fait, mine de rien, tout ça, ça me fait à la fois penser à Convergence, Il y a d'autres œuvres comme Multiversity de Morrison, puisque dans Multiversity, on nous révélait déjà à la fin que finalement, il y avait plusieurs multivers, que le multivers actuel avec ses 52 réalités qui avaient été refragmentées, enfin reformatées encore une fois lors des New 52, bah, ce n'est que un parmi d'autres. On devait d'ailleurs avoir un projet Multiversity 2 sur d'autres multivers qui n'a jamais eu lieu. Convergence également à la fin des héros remontés dans le temps pour annuler Crisis on Infinite Earth. Comment, on ne sait pas trop, mais en tout cas, en théorie, toutes les Terres devaient déjà être de retour. Et enfin, il y a Doomsday Clock. Alors, Doomsday Clock qui est sorti il y a quelques temps en VF. On va essayer de pas trop spoiler, mais là aussi, on apprenait que certaines Terres, comme celle des New 52, qui n'existaient plus vraiment depuis Rebirth, mais existaient toujours quelque part avec le Superman sans slip. Donc au final, on fait que reprendre une idée qui flotte au moins depuis Multiversity, à savoir que, bah, en fait, il y a un multivers bien plus grand que les 52 univers, et même plus grand que les 52 univers et le Dark Universe qui arrivait dans Dark Knight Metal. Bien avant Death Metal. Donc on fait que finalement reprendre des idées qui étaient lancées mais qui n'étaient jamais développées.
Oui, tout à fait. Après, derrière Death Metal, ça sort pas de n'importe quoi. Hein. C'est Scott Snyder, il a beaucoup de tort, mais il a aussi des qualités parce que dans Death Metal, il arrive quand même à créer un lien entre toutes les crises, alors qu'on l'apprécie ou pas. Et je vais pas spoiler dessus, mais derrière, c'est quand même un auteur qui arrive à créer un lien, une explication entre toutes les crises. Et ça, mine de rien, c'est quand même pas mal. Après, derrière, le récit en lui-même est très désagréable à suivre, même s'il a des bonnes choses. Mais derrière, oui, on arrive. Le problème en fait de Scott Snyder, c'est qu'il a trop regardé Dragon Ball Z en fait. T'as l'impression et je parle pas de la vraie époque de Dragon Ball Z. Hein. Je parle du moment où en fait Death Metal, c'est la saga de Boo mais sans fin en fait. Hein. C'est il y a toujours un nouveau combattant qui vient affronter le méchant, mais en fait il gagne pas. Mais en fait il y a un autre qui vient l'aider. Enfin bref, c'est sans fin.
On voit ça. Et puis aussi, il donne aussi peut-être des excuses à Greg Capullo qui fait le super dessin, bah, de se défouler un peu, donner des concepts barrés.
Ouais, il tire un peu la langue, hein, Greg. Ouais, Greg Capullo, il tire un peu la langue, hein, sur Death Metal, hein. C'est toujours de qualité, hein.
Alors c'est pas son meilleur travail, mais vu que les deux sont quand même devenus super potes après tous leurs différents projets ensemble, donc va savoir s'il laisse pas aussi libre cours parfois à l'imagination de Capullo pour s'éclater.
Bien sûr.
Ce qui donne des trucs visuellement qu'on aime ou pas, qui peuvent être bien, qui peuvent être pas bien, mais qui dans tous les cas s'intègrent peut-être mal au niveau scénario. Mais bon, on va pas s'éterniser sur Death Metal. Suite à Death Metal, on a Future States, on a aussi les deux one-shot Generations, à savoir Generation Forged et Generation Shattered.
L'inverse.
Jouer, c'est l'inverse, c'est dans l'autre ordre. Donc d'abord, on a eu Generation Shattered, la génération déchirée, brisée, éclatée, puis la génération forgée. Ce qui est d'ailleurs un petit clin d'œil à Dark Knight Fo The Forge, le one-shot qui lançait la première mini-série Dark Knight Metal. Alors, on en reparlera tout à l'heure, mais ces deux one-shots ont aussi un lien avec la 5G, puisque à la base, la 5G devait être précédée de différents one-shots, à chaque fois des one-shot generation. Ça commençait avec génération 0 et je pense que ça finissait avec génération 4 ou 5, je sais plus trop. Des one-shots qui ont purement disparu et dont certaines idées, on le verra tout à l'heure, se sont retrouvées dans ces deux one-shots-là, qui sont quand même bien à part de Future State, alors qu'on aurait pu penser que les deux seraient liés.
Oui, tout à fait. C'est du recyclage, c'est du bricolage. Alors ça arrive à retomber grosso modo sur ses pattes, mais on voit bien que derrière, c'est plein de projets qui en fait ont été relancés à la va-vite, pas lancés, mais relancés, avec des planches qui ont été reconstruites, des éléments qui essayent d'être en lien. On va y revenir tout à l'heure, mais bon, la Future State, on parle quand même de récits dans le futur, donc on parle de temps. Les One Shot Generations évoquent des personnages issus de leur ligne temporelle.
Et qui vont vers le passé, eux, pour le coup.
Ouais,
On va dans
mais
l'autre
il n'y a pas
sens.
un lien, il n'y a rien, enfin.
Ouais. Alors que pourtant, avec les voyages dans le temps et le multivers, il y aurait pu y avoir un lien. Mais bon, en laissant ça de côté, vraiment, Generation, c'est encore un autre
Oui,
problème.
retournons vers le futur, Marty, Mark, Marty.
Mais alors, ce qui est très drôle avec les mini-séries Future State, c'est qu'à la base, ce qui d'ici l'a pas dit comme ça, mais on comprenait que bon. Plein de concepts, le remplaçant de Batman, la remplaçante de Flash, tout ça, bah finalement c'est abandonné pour l'univers normal. Quand bien même ceux qui râlent d'ailleurs, ils sont un peu bêtes parce qu'on sait très bien que quand un héros est remplacé, il finit par revenir, mais passons. On se disait, bon, ce sera le temps de ces mini-séries, puis ce sera fini. Alors que finalement, bah non, puisque certains projets de la 5G vont quand même finalement avoir lieu, mais pas tous. C'est vraiment, on voit que DC, en fait, s'est donné, les nouveaux dirigeants de DC ont fait un peu, les nouveaux décideurs, ont fait un droit d'inventaire dans le projet 5G. Certains trucs sont totalement abandonnés, certains finissent juste dans Future State, et certains vont quand même se faire ensuite.
Oui,
On verra ça au cas par cas.
C'est très paradoxal parce que d'une part, t'as des projets qui étaient de la 5G où tu le sens à la lecture que c'était fait pour être la nouveauté, véritablement, et certains vont revenir au présent. Il y a eu des annonces, hein, donc derrière, notamment The Next Batman dispose pour l'instant d'un webcomics qui explique son passé, donc son présent, si vous suivez, attention. Et également la nouvelle Wonder Woman, Yara Flor, qui devait à la base même avoir une nouvelle série sur la chaîne télé CW avec l'Arrowverse. Ça a été annulé, mais donc elle est la Wonder Woman du futur et elle va devenir la Wonder Girl du présent. Mais en parallèle, il y a aussi plusieurs mini-séries Future State, où en fait on se rend compte que c'est des...
Des flash forward.
Oui, des flash forward, t'as raison, des préludes en fait.
Oui, bon, on peut dire lesquels déjà, hein. Disons-le tout de suite, hein.
Je pense à Teen Titans, là,
Oui.
notamment, ou dans le Future State Teen Titans, on voit la Teen Titans Academy. Bon, on va pas se mentir, hein, Future State, c'est pas le royaume du bonheur. Hein, l'essentiel des mini-séries, elles sont quand même dures.
Oui, à part Wonder Woman, justement, le reste est plutôt dur à suivre, oui.
Ouais, ça fait la tronche quand même, hein, c'est pas un futur joyeux, hein. Donc la Teen Titan Academy, ben, ça se passe très mal, c'est un peu la fin de la Teen Titan Academy. Et en parallèle, ben, dans les prochains jours, va sortir le premier numéro de la nouvelle série qui montre l'ouverture de la Teen Titan Academy. Qu'est-ce qu'il y a encore?
Là, on enregistre ça le 11 mars, donc Future State, à part un épisode de la mini-série Superman versus Imperius Lex, tout est déjà terminé depuis 2 semaines. Et la semaine dernière, on a déjà eu les premiers numéros de Crime Syndicate et de Suicide Squad, qui découlent de la mini-série Future State Suicide Squad.
Exactement, dans Suicide Squad, on voit énormément de choses. Dans Future State Suicide Squad, on voit le déroulé, ou en tout cas une mission de personnages qui se retrouvent dans le premier numéro de la nouvelle série au présent. Notamment Peacemaker, qui est bien mis en avant suite à sa future présence dans le film de James Gunn et sa série sur HBO Max.
Et donc en fait le titre Future State, Suicide Squad, on voit donc cette nouvelle Suicide Squad qui est en train de se former dans le titre au présent, affronter une autre version du Crime Syndicate, mais qui on se doute va sans doute découler d'événements qui auront lieu dans la série Crime Syndicate qui vient aussi de commencer. Désolé si on vous embrouille, hein, faut suivre un petit peu, mais voilà, ça vous donne un peu l'idée de ce qui se met en place.
Pareil pour Green Lantern, il y a eu une mini-série Future State où il y a eu donc c'était deux numéros avec plusieurs petites histoires dedans, et il y a notamment une petite histoire qui fait prélude à la future série Green Lantern qui va arriver bientôt, où on voit notamment la Teen Lantern de la Legion de Justice faire équipe avec John Stewart
Et Mogo.
et Mogo, exactement.
Une histoire que j'ai bien aimée d'ailleurs.
Oui, c'était bien.
C'était mignon.
Mais du coup, voilà, c'est beaucoup de choses par rapport à ça qui du coup permettent de préparer les choses.
Ouais. Et puis il y a aussi des auteurs, je pense à l'auteur qui écrit la mini-série Superman Worlds of War, où là, je ne sais pas si forcément il introduit des éléments qu'il va réutiliser, mais au moins il nous permet de voir le ton qu'il y aura dans sa série.
Oui, tout à fait. Philip Kennedy Johnson va en fait utiliser ses trois numéros Future State, ce qui fait les deux numéros de Superman Worlds of War et le one-shot Superman Use of Hell. Comme, on va dire, des manifestes. Ça m'a un peu rappelé, ça rappellera des souvenirs aux plus anciens, le manifesto de Grant Morrison avant de prendre les X-Men, où il avait fait une page pour dire comment il voyait les X-Men et quels étaient ses projets. Bah, cet auteur, en fait, utilise ces trois numéros, ces trois one-shots, pour raconter un peu des histoires, bien sûr, mais surtout, en fait, évoquer comment lui voit le personnage Superman, parce que ce dernier apparaît très peu, mais on ne parle que de lui, il y a énormément de personnages secondaires qui parlent que de lui, et du coup c'est très beau et très fort. Donc voilà, Future State c'est un peu un machin, bon, je reste sur ce terme, où d'un côté on a la réutilisation de concepts 5G, de choses déjà préparées, et en même temps des préludes à des séries actuelles, ou en même temps des galops d'essais pour des nouvelles équipes ou des propositions pour tenter un peu autre chose.
Je pense à Ramvi aussi sur Swamp Thing, par exemple.
Oui, tout à fait, qui a eu deux numéros pour pour Swamp Thing et qui maintenant lance une mini-série dessus aussi. Il y a eu d'autres choses aussi qui ont été testées, comme la mini-série Kara Zor-El Superwoman qui proposait une nouvelle orientation pour Supergirl, donc Superwoman dans le futur. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de suite. En tout cas, il y a une mini-série qui a été annoncée sur elle, mais sans lien avec Future State. Mais en fait, voilà, Future State, c'est un grand bac à sable, ça a été un grand fourre-tout. Mais du coup, dans tous les fourre-tout, généralement, il y a souvent des bonnes choses à prendre. Donc, c'est pour ça qu'on voulait en parler.
Alors, ce que je te propose, c'est que là, on va parler un peu plus des titres. On va les citer, mais on va pas tous les détailler. Et donc, comme tu le dis, ça commence avec une frise temporelle, une timeline en anglais, qui a été officiellement dévoilée par DC, avec des dates qui, d'ailleurs, je suis pas allé revérifier dans Doomsday Clock, mais il y a peut-être un petit lien avec ce qu'on voyait à la fin. Geoff Jones, à la fin, montrait des pistes de ce que devait être la 5G, mais comme entre-temps les plans ont changé, ben, il y a peut-être des choses qui renvoient à ça et d'autres non. On commence en 2025, donc demain, quoi, quasiment, avec quasiment la plupart des titres liés à Batman qui se passent à ce moment-là. Alors, si vous regardez la frise chronologique, vous verrez qu'il y a plus de titres que ce que vous voyez dans les sollicitations. C'est normal, parce qu'il y avait beaucoup de backups. Il y a eu beaucoup, hein, je pense à Redwood, à Grifter, notamment dans les titres Batman, on a eu beaucoup, beaucoup de backups de diverses qualités, donc c'est pour ça que sur la frise, elle paraît surchargée, mais il n'y a pas autant de titres qui sont sortis non plus dans le commerce.
En fait, DC a été un peu vicieux parce qu'il y a eu deux mini-séries, en tout cas deux magazines, qui n'ont pas eu deux numéros mais quatre. C'était Future State The Next Batman et Future State Dark Detective.
Quelle surprise, les titres sur Batman!
Bah oui, quelle surprise! Et du coup, en fait, c'était des numéros de 64 pages, ce qui est quand même beaucoup. C'était trois fois, hein, du coup, un épisode normal. Et en fait, derrière, donc dedans, il y avait à chaque fois un numéro de The Next Batman, donc sur le nouveau Batman, le prochain Batman, et Dark Detective sur Bruce Wayne. Et il y avait beaucoup de backups, donc il y avait Redwood, il y avait Batgirls, il y avait.
Les Gotham City Sirens.
Ouais, il y avait Grifters, il y avait Outsiders, etc. Et Arkham Knight aussi, je vois ça d'ailleurs.
D'ailleurs, alors en gros, tous les titres Batman se passent tous en 2025, sauf Dark Detective qui est en 2027.
Ce qui n'a aucun sens.
On
Pardon,
va y
excuse-moi.
revenir. Il y a peut-être Superman Batman qui doit se passer plus tard. Bon, bref.
Non, 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 Superman Batman, il est en 2025, mais en fait, c'est.
D'accord.
Moi, j'aurais mis en 2024, en fait, dans l'idée, parce qu'en fait, ça se passe juste avant l'événement dramatique qui
D'accord.
provoque les événements de Future State pour Gotham.
Ok, alors je précise juste que moi, j'ai lu une bonne partie, je pense, j'ai lu les deux tiers des titres Future State, et quasiment aucun des titres Batman, tout simplement parce que j'ai commencé The Next Batman, j'ai pas accroché au bout de deux numéros, j'ai arrêté, et puis il y a Dark Detective que j'ai quand même terminé pour l'émission, et j'ai lu Nightwing, que j'ai bien aimé, mais j'ai rien lu d'autre. On a dans Future State plusieurs storylines. Dans les titres Batman, on a la storyline sur les Magistrates. Dans les titres Superman slash cosmique, parce que je pense à Green Lantern, on a le King in Red, ou le Red King, je sais plus,
Oui, le Red King,
le
Red
Red
King.
King. Voilà, on a comme ça 2-3 storylines
Enfin,
quand même. Et puis on a une
mais en
troisième
plus, ils
story.
sont.
Oui, pardon.
Je me permets, c'est pas cohérent le Red King en fait, parce que dans The Last Lantern et dans Superman News of Hell, il y a deux menaces qui sont appelées le Red King, mais c'est pas le même à chaque fois.
Alors justement, c'est pas le même, mais comme
Parce
il
que
se
oui, moi,
passe,
monsieur, j'ai tout lu, monsieur, moi j'ai préparé cette émission,
j'ai lu
monsieur.
ces deux titres-là, et même s'il se passe du temps entre ces titres, si ça se trouve, un personnage a très bien pu s'inspirer du précédent pour bâtir sa légende dessus.
Oui, tout à fait.
Voilà, je vous laisse le bénéfice du doute. Si ça se trouve, il y avait peut-être des plans avortés, hein, des backups ou des one-shots qui sont passés à la trappe. Peut-être que les auteurs comptent revenir dessus ensuite, ils se laissent des billes pour plus tard, va savoir. Mais voilà, on a comme ça deux. En gros. De ce que j'ai lu, je dirais qu'il y a, allez, il y a trois storylines. Il y a les Magistrates qui sont surtout dans les titres Gotham. Il y a le Red King sur les titres Superman et Cosmic. Et on a tout un tas de titres, je pense, qui gravitent autour des Titans et de Flash, qui eux sont liés entre eux avec une intrigue, vraiment une intrigue méta, qui elle va avoir par contre sans doute une incidence dans les titres du présent. Si tu vois ce que je veux dire.
Oui, ça c'est super bien, ça c'est. En fait, ce qui est particulièrement frustrant, c'est pas frustrant dans Future State, mais la lecture de Future State te laisse vraiment comprendre que pour DC, dans Future State, c'est univers par univers. Et je parle pas là univers Terre 1, Terre 2, etc. C'est vraiment franchise par franchise. Il y a la franchise Gotham. Il y a la franchise Superman, il y a la franchise Wonder Woman, il y a deux, trois trucs qui gravitent autour, etc. Mais ça reste quand même bien dans son coin. Il y a des rencontres, hein,
Et je dirais qu'il y a la franchise Dark, dans lesquelles il y a les Teen Titans, la Suicide Squad,
Voilà.
un petit peu, je crois, Black Adam aussi. Enfin voilà, il y a aussi cette
C'est
franchise-là.
ça.
C'est vrai qu'avant, je disais qu'il y a trois storylines et il y a Wonder Woman qui survole un peu tout ça, qui est un peu au-dessus.
Oui. Mais par contre, ce qui est un truc qui est très cool, c'est qu'il y a des auteurs qui se sont mis d'accord pour en fait créer une saga sur plusieurs mini-séries et sur plusieurs temporalités. C'est-à-dire qu'il y a une saga qui commence dans Future State The Flash, qui se poursuit dans Future State Teen Titans, qui continue encore dans Future State Shazam, et qui s'achève dans Future State Black Adam, qui est la backup de Future State Suicide Squad. Et ça a une fin. Et c'est quand même très cool, parce qu'en fait, du coup, il y a ce bon vieux sentiment d'univers partagé, de continuité, de cohérence, etc. Parce que chaque saga peut se lire de manière autonome, mais toutes les lire, c'est vraiment bien. Et ça, c'est quelque chose que je voulais souligner, c'est vraiment cool, en fait.
Alors on va y revenir dessus, bon sans rentrer dans les détails, juste je reviens en 2025. Donc globalement, ton impression sur deux choses. De un, sur le cas Next Batman, parce que ça on est obligé d'en parler un petit peu à part, parce que c'est un peu particulier et il y a une suite. Et il y a de manière globale l'intrigue des magistrats. Alors pour ce qui est de l'intrigue des magistrats, enfin les magistrats en français, qu'est-ce que tu en penses? Peux-tu juste résumer ce que c'est? Parce que vu que tu es notre invité, ben, je vais surtout en profiter pour te faire parler toi. Et qu'est-ce que tu en penses? Surtout que tu adores l'univers Batman.
Oui, je suis un grand fan de Batman depuis toujours, alors.
Et de dystopie aussi, je crois.
Oui, tout à fait, tout à fait. Magistrate, qu'est-ce que c'est? Bah, en fait, c'est que tout simplement, Gotham est sous loi martiale. Le maire a donné les clés de la sécurité de la ville à une milice privée qui a pris le contrôle, qui a rendu Gotham officieusement autonome, avec la police de Gotham qui est réduite à gérer des trucs inutiles. Et en fait, tout est géré par l'organisation Magistrate, qui a des méthodes expéditives, qui a interdit les super-héros, qui attaque agressivement les super-vilains, bref, on est sur une dictature policière. Il arrive quelque chose à Batman, à Bruce Wayne. Après, je sais pas si tu veux que je spoil ou pas, parce que
Bon,
c'est...
on va rester, non, restons vagues un petit peu quand même,
Voilà,
hein.
bon,
Alors, on
Bruce
reste
Wayne, Bruce...
juste pour, avant de te laisser continuer, juste dire que on est quand même dans le convenu avec Batman, hein. Ça fait penser de loin à Dark Knight, à des choses comme ça. En même
Ah
temps,
oui.
Batman, l'univers urbain, l'homme qui se dresse face au danger, Batman lui-même qui se demande souvent, est-ce que je dois outrepasser les règles ou pas, jusqu'à quel point on doit laisser les autorités avoir la main mise sur nos libertés ou pas. En même temps, c'est les thèmes qui coulent de source aussi avec Batman et avec Gotham, qui est une ville qui est la Sodome un peu moderne, quoi. Donc ça coule de source
Oui, tout à
aussi
fait.
que ça arrive dans cette ville-là, ce qui se passe.
Zéro surprise, zéro déception du coup non plus,
Oui.
mais zéro ambition non plus.
Ouais.
Voilà, après derrière, l'intrigue en soi, y a pas grand-chose à dire. C'est pas inintéressant, mais c'est pas vraiment passionnant non plus. On a plusieurs mini-séries qui ont des qualités plus ou moins bonnes, hein. Bon, on va mettre de côté The Next Batman et Dark Detective, on va y revenir après, mais tu disais que Nightwing c'est bien, ouais, Nightwing c'est bien. C'est sympa, ça aurait dû être un one shot plus que deux numéros, mais c'est sympa. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a Robin Eternal,
Ah, je l'ai pas
ou
lu.
Team Drake lutte tout seul, là aussi ça aurait dû être un one shot, mais c'est sympa. En plus, il y a Eddie Barrows qui revient après le Détective Comics de James Tynion IV. Donc ça c'est pas mal. Catwoman sur deux numéros, c'est très sympa. Grosso modo, ouais, il y a Harley Quinn aussi, hein, complètement anecdotique. Le principe est plutôt pas mal, le pitch est pas mal, Harley Quinn en fait. C'est le pitch, hein, donc je vais pas trop spoiler. Devient la profiler de. Elle est forcée d'être la profiler des super-vilains pour l'organisation Magistrate. Donc en fait, c'est plutôt pas mal, parce qu'en fait, du coup, elle les connaît bien. Mais c'est anecdotique. C'est sympa.
Ça fait penser au Riddler qui bosse pour la police, en fait.
Tout à fait. C'est sympa, mais ça casse pas trois pattes à un canard. En fait, c'est très convenu. Ça, c'est sympa, ça se lit bien, mais c'est sans folie.
D'accord.
Il y a le cas des deux mini-séries principales, The Next Batman et Dark Detective. Je vais laisser Next Batman à la fin parce qu'on va s'y attarder plus. Dark Detective, c'est une énorme déception. C'est dessiné par le très très talentueux Dan Mora, qui dessine vraiment très bien, mais en fait le scénario est très mal fichu. On a un Bruce Wayne qui est en fuite. Pas de spoiler, mais il est en fuite. Donc il essaye de gérer, mais on reconnaît pas le personnage. Moi, ça fait plus de 20 ans que je lis Batman et que je suis Batman et j'ai vu plein des versions et c'est pas Bruce Wayne, c'est pas Batman et je veux pas faire mon extrémisme, mais c'est juste ces réactions ne sont pas celles que Batman aurait dû avoir. C'est en outre complètement incohérent sur la timeline et dans les événements, dans le sens où Dark Detective est normalement supposé se passer en 2027, donc 2 ans après toutes les autres, il est déjà en fuite et il y a déjà un nouveau Batman, mais on a l'impression qu'en fait il débute à peine dans cette fuite. C'est incohérent.
Voilà. Est-ce que entre le moment où Bruce Wayne disparaît, le moment où il réapparaît, il se passe 2 ou 3 ans, je ne sais pas s'il disparaît en 2025 ou 24, est-ce qu'on est censé comprendre que depuis toujours il est resté actif ou est-ce que il était inactif et d'un coup il redevient? Tu as raison. C'est un peu bizarre. C'est pas totalement incohérent qu'ils soient encore là en 2027, mais il nous manque une explication. C'est mal fait.
Il y a en outre une rencontre avec le next Batman et pff,
Et qui
ça
n'intervient qu'au
marche
troisième
pas.
numéro. C'est pour ça que jusqu'au troisième numéro, je me rappelle que tu comprenais pas. Et quand j'ai lu ça hier, je me dis, bon, à partir du troisième, on se dit, en fait, oui, ils ont juste cohabité. Et ils s'ignorent ou ils arrivent à ne pas se croiser. Mais ouais, ça marche pas bien. Il y a un truc qui
Non mais
coince.
c'est Gotham, hein, je veux dire, ok, c'est une grande ville, hein, mais c'est pas un pays non plus, hein, je veux dire, à un moment.
Surtout que
Enfin,
certains personnages, bah Nightwing et le nouveau Batman, travaillent ensemble. Donc c'est incohérent que Bruce n'ait pas essayé de travailler avec eux s'il est là depuis le début, quoi. Il y a un truc qui va pas, oui.
c'est dommage. Ouais, c'est dommage parce qu'en plus, il y avait des backups qui étaient bonnes hein,
Ouais,
là-dedans, hein,
alors
mais.
Redwood, un de mes récits gothamiens, des quelques-uns que j'ai lus préférés, avec Redwood en chasseur, parce que certains super-héros et super-vilains deviennent des chasseurs pour les magistrates, mais tout se passe pas comme prévu, il y a deux, trois petits retournements, c'est pas mal. Il y a même d'ailleurs à la fin un petit mystère, il y a une petite voix, on ne sait pas trop
Oui.
qui c'est. Donc là aussi, on se dit, tiens, un récit qui aura sans doute une suite, mais vu que The Next Batman continue, c'est pas très étonnant, hein, sans doute que on y reviendra là-dedans ou qu'il y aura des récits
Tout à fait.
annexes.
Il y a des bonnes choses et enfin, il y a The Next Batman qui était le projet préparé depuis des années par John Ridley, comme on le disait. Et c'est une grosse déception parce qu'en fait, derrière, oui, c'est un Batman afro-américain. Le problème, c'est qu'en fait, il y a 4 numéros, qu'il y a grosso modo un jeu jusqu'au numéro 2 ou 3, je ne sais plus pour savoir qui c'est, mais en fait, DC a annoncé le poteau rose bien avant, donc bravo les gars. Mais du coup, en fait, c'est dommage parce que le premier numéro joue vraiment sur ça. Et en fait, bah ouais, mais en fait, les gars, on le sait déjà. Ça a été annoncé, et puis ça a été annoncé avec perte et fracas, donc. Et c'est super convenu, et c'est super chiant, et en fait, il se passe rien d'intéressant. T'as l'impression que le mec, en fait, c'est un boulet. Enfin, c'est une grande déception. Pour un récit qui a été annoncé depuis tant d'années, et qui du coup a été préparé depuis tant d'années, si franchement, en tant d'années, les gars, vous savez faire que ça, mais en fait, ça valait pas la peine, hein. C'était pas grave, hein. On pouvait s'en passer, hein.
Eh ben
Donc,
écoute,
ouais, c'est décevant.
c'est de toutes les mini que j'ai lues de Future State, c'est la seule où je ne suis pas allé au bout, parce qu'au bout de 2 numéros, je me suis dit bon, c'est pas mauvais. En soi, que ce soit un inconnu qui reprenne le masque de Batman, bon, moi j'ai rien contre, hein, les successeurs qui sortent de nulle part, bah pourquoi pas? Ça fait le sel du truc aussi, hein. Pourquoi veut-il devenir successeur? Comment quelqu'un qui n'a pas été entraîné se débrouille? Je veux dire, pourquoi pas? Il y a eu de très bons cas, hein. Parce que si ceux qui râlent, je fais juste une parenthèse, ceux qui râlent sur le principe de quelqu'un qui n'est pas lié à Batman, qui prend le manteau et en plus qui gueule un peu sur le fait qu'il est afro-américain, vous faites quoi de Miguel O'Hara et de toute la gamme 2099 à ce moment-là? Parce que là aussi, on a une gamme dans le futur avec des gens qui n'ont rien à voir avec les héros dont ils deviennent les successeurs, dont souvent ils sont très éloignés alors que ça donnait de très bons titres. Mais c'est vrai que c'est convenu et surtout, c'est un peu lié, j'ai l'impression, tu me corrigeras si je me trompe, au run de James Tynion IV, me semble, par rapport à la famille qui est au cœur du nouveau Batman, non?
Oui, tout à fait, oui.
Et donc, si vous suivez pas ça, comme moi, et ben vous vous en foutez parce qu'on passe à côté. Genre, il y a des persos qui
Ouais,
parlent.
t'es paumé,
Il
quoi.
parle de choses qui sont sans doute arrivées dans le run de Tignon ou qui vont continuer, qui vont arriver dans le run. Et si vous n'êtes pas attiré par cette storyline, si vous n'y connaissez rien, ben en fait, vous en fichez, vous dites ouais, ok, d'accord. C'est sans doute bien pour les gens qui suivent le titre auquel celui-ci fait référence ou tout du moins tire des morceaux d'intrigue. Mais sinon, bah, je suis resté à côté. J'avais l'impression de voir quelque chose qui ne s'adressait pas à moi, quoi, qui n'était pas pour moi. C'est dommage. C'était pas fédérateur.
Non, c'était pas fédérateur.
Et d'ailleurs, oui, juste comme je suis sur ma lancée, le fait que finalement James Tynion IV, on est quand même sur quelqu'un qui devait faire un peu, devait faire quelques numéros fill-in ou tout du moins un petit run sur Batman en attendant ce run-là. Au final, son run continue. Et est-ce que de 1, est-ce que le fait qu'il prend de l'ampleur et que alors ces intrigues plaisent pas à tout le monde, mais elles ont un certain succès, est-ce que ça n'a pas aussi incité à laisser tomber le côté le projet Next Batman, peut-être? Et j'ai aussi l'impression que les magistrats et tout, le nouveau maire, ça tire ses racines dans ce run-là, non?
Alors en fait, c'est un micro spoiler, hein, mais derrière, dans le Batman 1006 qui vient de sortir, juste après Future State, en fait, les germes de l'organisation Magistrate sont évoqués. En
D'accord,
fait,
ouais.
on commence à entrevoir comment l'organisation pourrait un jour, enfin, il y a des gens qui commencent à créer, à se dire, ça serait bien de créer un truc comme ça. Et le
D'accord,
lecteur
ouais.
de Future State se dit, hey, en fait. Ça pourrait devenir ça. Mais oui, clairement, tu as entièrement raison. On est sur la suite de ce que fait Tinion. Et si tu le lis pas, t'es à côté. Et même si tu le lis, en fait, tu dis ouais, ok. C'est convenu, c'est obscur. Et c'est essentiellement mal fichu.
Ouais, même si on le lit comme c'est pas terrible.
Ouais, tu passes à côté, en fait.
D'accord.
Et alors que c'est dommage, il y a plein de mini-séries Gotham, mais en fait, c'est soit sympa, mais tellement déjà vu, ou soit raté, parce qu'en fait, ça passe à côté.
Bah alors, on vous laissera découvrir ça quand ça sortira en VF, ou même dans les TPB. En gros, DC a déjà dévoilé ses TPB. Ils vont suivre un peu les classements par famille. On aura deux TPB sur Gotham, un TPB The Next Batman et un autre Dark Detective. Donc les deux séries principales sont chacune à la tête d'un des TP et il y aura ensuite différentes mini qui seront à coller. Et c'est pareil, on aura un TP Justice League, un Superman, un Suicide Squad et un Wonder Woman. Je vous mettrai la liste dans l'article qui accompagnera le podcast. On va pas trop alourdir les infos qu'on vous donne. On vous en balance déjà plein comme ça. On passe donc en 2027 où se termine cette intrigue Gothamite avec Dark Detective. Et là, on a deux gros morceaux. On a The Flash et Teen Titans. Deux titres sur lesquels on peut pas passer, je pense, hein, parce que c'est quand même, qu'on aime ou pas, ici passe des choses. Et The Flash, eh ben alors, The Flash, c'est quand même le titre problématique
Ouais.
et qui de toute façon, qu'il soit raté, qu'on le trouve raté ou pas, adresse un gros problème. Ce gros problème, c'est Wally West, qui est un problème en fait depuis non seulement les New 52, mais même avant, puisque Dan Didio, on l'a pas dit, mais c'est ce qui est un truc assez bizarre dans cette génération 5G, c'est que c'est quand même quelqu'un qui jusque-là avait l'air de détester les sidekicks, puisqu'il a quand même voulu tuer Dick Grayson à l'époque d'Infinite Crisis. Si Wally West est mis de côté pour que Barry Allen reprenne sa place, puis dans les New 52, Wally West est carrément effacé de la réalité, c'est sans doute un peu aussi à cause de Dan Didio. Et Wally West, depuis qu'il est revenu au moment du Rebirth, on va pas vous refaire toute l'histoire là, c'est assez compliqué hein, et c'est pas toujours très bien exécuté. Bah, mon Dieu, les fans de Wally hurlent au désespoir, n'est-ce pas Ben?
Oui, tout à fait. Wally West est extrêmement maltraité. Alors, on a eu un peu un espoir après le One Shot Rebirth, où du coup, on voyait que Wally West était extrait de la Speed Force grâce à Barry Allen, et du coup, il devait incarner l'espoir. Mais en fait, c'est tombé à plat parce que, ok, il doit incarner l'espoir, mais personne n'a vraiment su quoi en faire. A posteriori, Rebirth a été un peu la lettre d'adieu de Geoff Jones à l'univers DC parce qu'il a commencé à, même s'il a encore travaillé dessus, il a commencé à rapidement lâcher la main après ce one shot. Et en fait, Wally West dans Future State The Flash et bon, c'est dans le pitch aussi, hein, il est une nouvelle fois en fait au centre d'une intrigue négative et sombre et brutale. Où il n'est pas en pleine possession de ses moyens et ça se passe mal et du coup il y a plein de drames et plein de soucis et encore une fois en fait il a le mauvais rôle et c'est fatigant en fait.
Après Heroes and Crisis et puis la mini-série Flash Forward qui devait à nouveau redorer le blason du personnage, c'est lourd.
Ouais, elle était bien, hein. Elle était bien.
Alors j'ai pas lu Flash Forward parce que Heroes in Crisis m'a tellement dégoûté que
Bah c'est lourd.
je ne suis même pas allé sur Flash Forward.
Oui, bon, Flash Forward piétine allègrement, et puis après le run de Joshua Williamson vient même en rajouter une couche parce qu'en fait derrière il vient révéler un élément de Heroes in Crisis en disant Hey, mais en fait c'était pas de sa faute. Donc on en est là. Après derrière on voit peu à peu dans les sollicitations et dans les choses que ce qui était prévu. Parce que là clairement, ce qu'on a dans Future State The Flash, je pense que c'est ce qu'on aurait eu dans la 5G en fait. Dans le sens où en fait les sollicitations vont sur une remise en avant de Wally West sur Terre, en tout cas pour la nouvelle série Flash, avec donc Barry Allen qui est toujours vivant, hein, pour ses fans, attention, mais par contre il va avoir d'autres rôles, il va être peut-être un peu moins présent et Wally West va être plus présent. Et The Flash finit sur une note super sombre, mais une possibilité pour Wally d'aller mieux, et je pense qu'en fait on serait parti là-dessus. Après, derrière, ce Future State The Flash, c'est juste mauvais. Le premier numéro passe encore, le deuxième est une purge, qui n'est pas dessinée par le même dessinateur que le premier, je crois que même qu'il y en a deux.
Oui, le premier c'était Dale Eaglesham, donc un habitué d'ailleurs de Flash et très bon dessinateur qui a été débarqué de ce projet.
Ouais, c'était sympa. Et il l'a dit lui-même sur les réseaux sociaux, hein, il devait le dessiner, puis finalement on lui a dit non. Et ensuite, derrière le deuxième numéro, c'est une purge. Il y a trois personnages, ils font que parler. C'est super long, c'est super chiant, c'est super mal fichu.
Et c'est très violent alors que Flash c'est quand même le titre de l'espoir.
Ouais, c'est très violent et c'est très bateau et c'est très bourrin, bref. Par contre, d'ailleurs, c'est important parce qu'en fait, ça lance cette fameuse saga dont je parlais qui passe de Flash à ensuite Teen Titans qui est également en 2027 où du coup c'est la fin de la Teen Titans Academy parce qu'évidemment il y a un drame qui est lié en fait à ce qui s'est passé avec Flash. Et en fait, Teen Titans, c'est plutôt pas mal même si en fait on sent du coup que Terry Sheridan, qui est l'auteur de Teen Titans Future State et qui va être l'auteur de Teen Titans Academy, bah, il est un peu embêté parce qu'en fait il montre la fin de personnage qu'on n'a pas encore présenté, donc c'est quand même un peu dommage.
D'ailleurs, il y a des flashbacks, hein. C'est très confondant dans la mini Teen Titans.
Oui. Puis en plus il y a un mystère sur le personnage Red X. Red X qui est en fait une identité de Robin, que Robin avait prise à un moment et qui s'était surtout montré dans un des dessins animés Teen Titans des années 2000, je ne sais plus lequel.
C'était d'ailleurs que montré dans le fameux dessin animé Teen Titans des années 2000, où
Voilà.
Robin prenait cette identité. Alors, je sais plus, c'était pour
Rejoindre Deathstroke, un truc comme ça.
Deathstroke ou les Fatal Five, je sais plus lesquels, enfin leurs ennemis, c'est pas les Fatal Five, je sais plus là, les. Bon, bref. Et un personnage reprenait dans la saison suivante l'identité, et on n'a jamais su qui c'était. Et là, on joue totalement sur ça dans cet épisode, puisque chez les fans, c'est devenu un peu un running gag, l'identité de Red X. Et là, on joue sur ça, et donc on aura un Red X dans la nouvelle série Teen Titans Academy. Mais qui sera-t-il? Oh là là.
Voilà.
Mais ça m'a donné envie de jeter un œil à cette future série quand même.
Ouais, c'est sympa, c'est un prélude, c'est sympa, ça fonctionne bien. Donc pour le coup, c'est assez sympa. Puis en plus, derrière, ça a l'avantage d'enchaîner directement ben, avec la mini-série suivante, en tout cas sur la temporalité, Shazam.
En 2029.
Voilà, 2029, où derrière, en fait, on a la suite de cette grosse intrigue, mais cette fois-ci sur le point de vue de Shazam, qui à ce moment-là, en fait, est le chef d'une Justice League un peu paumée, avec un peu des personnages secondaires. Alors c'est très sombre.
En fait, c'est un gros hommage à la Justice League de Détroit, quand même, cette
Oui,
Justice League.
tout à fait. Et après, bon, c'est très sombre. C'est vraiment très sombre, mais c'est bien fait, en fait. C'est bien fichu. Mais alors, c'est faut pas être dépressif, hein. C'est compliqué
Oui.
après, hein. Mais c'est bien fait. C'est bien fait, c'est sympa, donc ça fonctionne bien, hein. C'est bien dessiné, c'est assez cool. D'ailleurs, en parlant d'autre chose qui est bien dessinée, j'en fais une transition vers le Aquaman, je crois que tu l'as lu aussi.
Oui, je l'ai lu aujourd'hui. Très très bonne surprise. Aquaman qui aurait dû s'appeler Aquaman et Aquawoman,
Oui.
puisque on en a deux pour le prix d'un dedans, puisque nous avons Jackson Hyde, donc le Aqualad actuel, celui introduit dans le dessin animé Young Justice, qui fait équipe avec la fille d'Aquaman et de donc Arthur
Mera.
Curry et de Mera, qui on l'apprend s'appelait avant Aqualas et maintenant s'appelle Aquawoman. Et donc on a une aventure de ces deux persos, et comme tu l'as dit, c'est très bien dessiné. C'est pas mal du tout, alors ça nous introduit bien le perso.
Oui, c'est une belle étude de personnage. C'est en 2030. Il y a un numéro sur le nouvel Aquaman, un numéro sur la nouvelle Aquawoman. Franchement, ça se lit bien, c'est joli, c'est sympa. Et en fait, j'aimerais lire plus d'aventures de ces deux personnages ensemble qui s'entendent vraiment bien et c'est bien fichu.
Alors, le concept qui est de cette eau dans l'espace qui est introduit, je ne sais pas si on l'a vu avant, mais ça m'a un peu fait penser. Je ne sais pas si tu as chez Marvel les mini-séries The Last Defense, chapeautées par Al Ewing il y a
Oui, si.
2-3 ans, avec
Si, 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 si.
Namor qui découvrait que par les océans, il pouvait aller sur une autre planète
Oui,
océan.
tout à fait.
Ça m'a fait penser à ça quand même un petit peu.
C'est bien vu. Ouais, franchement, c'est sympa. Et puis, je trouve que c'est pas mal. C'est une bonne utilisation du principe de l'océan. Franchement, c'est cool. C'était sympa. Franchement, c'était cool. Moi, ça m'a bien plu. Et c'était bien agréable à suivre, à lire. Et c'était sympa.
Ça donne envie d'en lire plus, comme tu dis, ouais.
Ouais. Après 2030, grosse année hein, pour Future State, parce qu'il y a plein, 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 plein d'événements.
Alors, plein d'événements, mais alors quand on regarde la frise, c'est surtout des backups. Il y a aussi des titres, hein, mais c'est surtout des backups. Et parmi les titres, il n'y a pas que les meilleurs. Il y a un des meilleurs et les autres bof.
Bah, t'as les deux Superman dedans.
Oui, alors je vais juste faire la liste de tout ce qui sort, et puis on reviendra sur ceux qu'on a envie. Donc Aquaman, Black Racer, Justice League Dark, Metropolis, Midnighter, Mister Miracle, Suicide Squad, Superman of Metropolis, Superman Worlds of War et Nubia. Alors, de quoi as-tu envie de nous parler en premier?
Bah pour revenir rapidement, on a Aquaman, on en a parlé. Black Racer, c'est une backup de Superman World of War, sans intérêt. Justice League Dark, c'est Ramvi qui a pris la suite de James Tynion IV sur Justice League Dark qui le montre. Ça se lit bien, mais c'est anecdotique. C'est la Justice League Dark face à une énième menace. Ce qui est sympa, c'est de voir un peu comment ils ont bien pris dans la tronche, mais sinon, c'est pas fou.
Bah écoute, là j'ai revécu la même chose que sur The Next Batman et tu me l'avais confirmé que si on n'a pas lu les dernières aventures de la Justice League Dark, on saisit pas certaines choses. Enfin, c'est pas illisible, si on connaît juste les persos, c'est pas illisible, mais on sent qu'on a loupé des événements, quoi. Ils font référence à des trucs
Oui.
qui ont effectivement eu lieu.
Faut être à jour.
Ouais. Ce backup-là, c'est le backup de Justice League. Autant j'ai lu toute Justice League, autant lui, je l'ai aussi laissé tomber. C'est la deuxième histoire que j'ai laissé tomber parce que bon.
C'est pas new reader friendly, c'est pas non plus super passionnant pour ceux qui ont lu Ramvi sur Justice League Dark, voilà. Metropolis, ça doit être la mini-série Midnight Guardian dessus.
Oui.
Midnighter, le plus simple, alors on peut mettre un mot sur Suicide Squad qui a une bonne idée de base mais qui est super complexe parce qu'en fait ça
Ouais.
se passe à moitié sur Terre et à moitié sur une autre Terre mais en fait tu sais pas mais tu comprends pas.
Ouais, il y a des choses qui restent volontairement floues. En fait, non seulement tu te dis, bon, les titres Suicide Squad et Crime Syndicate qui se passent dans le présent vont amener à ça, et tu t'attends aussi à ce qu'il y ait sans doute un jour une suite à cette histoire-là, parce qu'il y a des choses irrésolues. Ça donne envie, ça met l'eau à la bouche dans le premier numéro, et le deuxième nous laisse sur notre faim, malheureusement.
C'est une bonne idée de base, mais c'est pas, ça marche pas bien.
C'est pas un échec, mais l'exécution est bancale, quoi.
Nubia, bon, c'est anecdotique, hein, c'est sur le personnage de Nubia, qui est un personnage assez ancien dans la mythologie de.
Une des nombreuses remplaçantes de Wonder Woman.
Voilà.
Alors juste une parenthèse, Wonder Woman, donc Nubia, c'est la Wonder Woman noire. Comme quoi, ceux qui râlent encore une fois sur les Superman noirs, des Batman noirs. Bon, bah il y a eu James Rhodes, il y a aussi eu Nubia avant. Hein. Comme quoi, faut arrêter de penser que ce sont aussi des idées totalement nouvelles.
Oui, tout à fait. La backup Nubia, elle l'a réintroduit, c'est anecdotique, c'est pas fou. Là, il y a les deux gros morceaux, c'est Superman of Metropolis et Superman World of War qui ont beaucoup de backup. C'était deux magazines de 48 ou 64 pages, je ne sais plus, je dirais 64.
C'est les pendants des deux titres Batman, sauf que eux sont restés à deux numéros.
Voilà. Bon, on va essayer de pas trop spoiler, hein, mais Superman of Metropolis, c'est sur John Kent, qui est donc un peu plus âgé en 2030, et qui est le Superman de Metropolis, tandis que son père, le Superman, est sur Warworld, d'où le nom de la mini-série World of War.
Rappelle peut-être ce qu'est Warworld pour ceux qui connaissent pas.
Tout à fait, mon cher Marty. Warworld, c'est une planète, un monde de la guerre, où en fait, c'est un monde artificiel de mémoire, créé par Mongul, un méchant historique de Superman. C'est le grand bonhomme jaune, là, super balèze. Warworld, c'est l'arme ultime de la galaxie, hein. C'est un monde ultra armé, ultra agressif, ultra dangereux, qui en plus plairait beaucoup à Apocalypse des X-Men parce que seuls les forts peuvent survivre. Et en fait, il y a des arènes où tout le monde se tape dessus et où Mongul est le maître.
C'est l'inspiration de World Hulk, quoi.
Oui, tout à fait. En parallèle de ça, il y a des backups. Il y a backup sur Metropolis avec Mister Miracle et il y a encore Mister Miracle sur Warworld, une autre mini-série, Midnighter aussi. En fait, il s'avère que dans Metropolis, John Kent prend une décision extrême pour protéger Metropolis et du coup, on voit les réactions sur les habitants dans les backups.
Oui. Alors je trouve pas Superman of Metropolis, j'ai déjà du mal à m'en souvenir. Je me rappelle de la décision que prend John, mais c'est à peu près tout. Mister Miracle, il y a une exploitation d'un paradoxe temporel qui est très drôle dedans, je trouve.
Ouais, c'est sympa.
Alors je sais pas si on peut appeler ça paradoxe temporel, mais enfin, il y a une idée que j'ai trouvée
Ça,
amusante.
c'est dans le World of War. Parce qu'en fait, il y a deux mini-séries
Ah, c'est dans
Mister
le World of
Miracle.
War, ouais. Oui, pardon, c'est dans
T'as
le
une
World of War,
mini-série
oui,
Mister
exact.
Miracle dans Superman of Metropolis qui n'apporte rien. C'est sympa, c'est joli. Et dans oui, il y a un bon paradoxe temporel dans Mister Miracle sur Warworld. Mais bon, c'est très anecdotique en fait. Hein,
Oui.
c'est des histoires à chute. Midnighter aussi, bon.
Ouais.
Pareil, hein, c'est quand même, ça joue aussi sur le paradoxe temporel, mais bon, enfin,
On va
c'est
zapper ça,
beaucoup
oui.
trop long pour ce que c'est. Les deux récits centraux, Superman of Metropolis, c'est raté. C'est raté parce qu'en fait, le problème de Future State, c'est que c'est essentiellement des mini-séries en deux numéros, et on va y venir peu à peu. Tous les auteurs ne savent pas écrire leur saga en deux numéros, et parfois ils sont trop ambitieux. Bah, Superman of Metropolis, c'est trop ambitieux. C'est-à-dire qu'en fait, du coup, tout paraît précipité. John prend une décision, il se fait enguirlander là-dessus, il se rend compte qu'il a été manipulé, il règle ça, il gère son conflit oedipien, et en fait, après, il change sa décision, et Metropolis. Police l'acclame. C'est beaucoup trop précipité, ça marche pas. Là où derrière, Philip Kennedy Johnson sur Superman World of War a été beaucoup plus malin parce qu'il a certes une idée de base assez forte sur pourquoi Superman se trouve sur Warworld, mais en fait il en profite surtout pour livrer un portrait du personnage sur sa combativité, son émotion, sa force mentale plus que physique, etc. Et au final, bah, il règle pas forcément la situation, mais derrière le récit se tient parce que finalement Superman sur Warworld, on s'en fiche un peu, c'était surtout pour voir un très beau portrait de Superman et de Clark Kent, ce qui est important. Clark Kent. Vous savez, pas le psychopathe devenu de Krypton dans certains films. Pardon.
Non, c'est vrai que ça, c'est une superbe surprise, vraiment un titre dont je n'attendais rien. Je me disais, oulala, là là, ça va être bourrin ce truc. Et pas du tout.
Non, non, ouais, je craignais un peu que ça soit bourrin. Ça fonctionne super bien. C'est très beau, c'est par Michael Janin. C'est mon coup de cœur. C'est un choc magnifique. J'en dirai pas plus parce que je spoilerai et j'ai pas envie. Mais lisez, si vous lisez qu'un truc de Future State, c'est Superman World of War et Superman Use of Hell. On va y venir tout à l'heure aussi.
On va y venir tout à l'heure. Alors, ensuite, on saute en 2035 avec un seul titre, The Last Lantern, où là, on a une histoire principale assez dynamique, très action, hein, qui se lit vite, qui est agréable, ma foi, mais bon, sans être mémorable, qui parle donc du fameux Red King. On a plusieurs backups, où on voit en gros bah, ce que deviennent les différents lanternes. On a notamment un backup sur Jessica Cruz, qui fait très alien.
Ouais, qui est très réussi, ouais.
Ouais, très réussi. Je suis même déçu qu'on n'en ait pas plus. Je crois que c'est un des auteurs qui va bosser dessus qui a fait le backup. J'ai plus tous les auteurs en tête là, donc.
Oui, il me semble. Après, Last Lantern, c'est sympa. Mais en fait, c'est du déjà vu. Mais du déjà vu sympa, dans le
Ouais.
sens où
C'est bien fait.
c'est bien fait. Les lanternes ont des difficultés avec leurs anneaux. Pour beaucoup de lanternes, ça rappelle un peu comment beaucoup ont vécu et géré après la destruction du Green Lantern Corps par Parallax dans les années
Oui.
80-90. On est sur des choses déjà vues, mais c'est maîtrisé, c'est sympa. Le fait que c'est essentiellement des petits récits, ça crée la diversité, c'est assez cool, ça se lit bien. C'est pas fou, mais ça fait le job.
C'est juste dommage qu'il n'y ait pas de suite. Je pense aussi au récit sur Guy Gardner qui est très drôle et où on aimerait bien.
Ouais.
Alors, peut-être encore une fois, comme là il y a des récits inachevés, est-ce qu'on va revoir ça ailleurs? Il y a des chances.
Oui.
On verra bien. L'avenir nous le dira. Et l'avenir, c'est cette fois-ci l'année 2040 avec un seul titre, Justice League, un autre gros morceau. Un diptyque que j'ai beaucoup aimé, alors plus peut-être la première partie que la seconde, où on voit donc les six successeurs des six icônes d'ici. Donc là, on a John Kent en Superman, le Next Batman, Yara Flor en Wonder Woman, la nouvelle Aquaman,
Aquawoman.
oui, Aquawoman, pardon, la nouvelle Flash.
Attention, attention pour Flash, parce que derrière, Flash est le premier personnage non binaire de DC.
J'allais y revenir, juste avant, j'oubliais qui est le sixième membre de l'équipe?
La Green Lantern de Far Sector.
Ah oui, et la Green Lantern de Far Sector. Donc oui, alors déjà, cette Flash, moi je m'attendais à la voir dans le titre Flash, parce qu'on en a pas mal parlé, il me semble qu'on l'aperçoit à la fin de Doomsday Clock. C'est donc, comme tu le dis, le premier personnage non-binaire de DC. Alors peut-être qu'on a déjà eu ce genre de perso dans des titres un peu type les choses de Grant Morrison et tout, en fouillant, peut-être qu'il y en a déjà avant, mais c'est le premier super-héros d'envergure non-binaire de DC.
Ce Flash est assez intéressant. Après, c'est frustrant parce que un personnage non binaire, c'est pas anodin, mais en fait, c'est complètement survolé, c'est pas du tout creusé. Et moi, j'aurais préféré en fait qu'on voit ça dans un diptyque directement, parce qu'en
Oui.
plus, c'est un personnage qui dit ne pas venir de cette terre, mais d'une autre. Enfin, c'est dommage et c'est de la frustration. Et ça aurait mérité mieux pour une avancée sociale comme ça. Ça aurait été mieux autre chose. Après, comme tu le dis, c'est deux bons numéros. C'est l'une des deux seules mini-séries écrites par un des grands scénaristes, en tout cas un des scénaristes connus et phares de DC avant Future State. Toutes les autres mini-séries sont écrites par des auteurs parfois connus, mais souvent secondaires ou pas trop importants. Il y a là, Justice League, c'est écrit par Joshua Williamson, qui a écrit les 6-7 premiers numéros de Justice League Odyssey, qui est le copain de Scott Snyder et James Tynion Ford sur tous les trucs de death metal et metal. Il est toujours là. Il est toujours là à écrire. Il avait écrit No Justice avec eux. Et il a écrit Flash longtemps. Et il n'y a que lui et Brian Michael Bendis sur Légion qui sont des auteurs phares par rapport à ça.
Et c'est vrai qu'en plus, c'est même pas lui qui reprend la Justice League ensuite, puisque c'est Bendis. Bon, c'est pas n'importe qui, mais j'en viens un peu à regretter que Williamson ne soit pas sur la Justice League, parce que j'ai bien aimé ce numéro, enfin ces deux numéros. En plus, on embrasse totalement la Justice League de Grant Morrison. On n'en dira pas plus pour laisser les gens découvrir ça. C'est aussi dans le one-shot Generation Shattered, la seule lien qu'on voit de ce one-shot avec Future State, c'est une apparition de cette Justice League. Et alors, pour parler un peu de l'intrigue, on a quelque chose d'un peu spécial, puisque là, on est sur une Justice League qui refuse de faire copain copain. Très peu d'entre eux connaissent les identités les uns des autres. Ils refusent d'avoir des nouveaux membres parce que visiblement, c'est ce qui aurait conduit la ligue précédente à sa perte. Et on a certains persos, notamment John Kent, qui s'interrogent sur, mais est-ce qu'on devrait pas quand même faire un peu comme nos aïeux? Est-ce que on va voir qu'il y a peut-être quand même certains personnages qui pactisent un petit peu entre eux? Voilà, c'est un récit bourré d'action, avec un peu de réflexion aussi. Malheureusement, ce n'est pas autant creusé qu'il n'aurait dû. Je pense que Williamson, on aurait aussi dû lui donner 4 numéros. Je suis très étonné que cette mini-là n'en ait pas eu autant, en fait.
Oui, je suis d'accord. Après, derrière, vu qu'ils ont voulu faire ça sur janvier et février, du coup, il y avait un besoin de choix pour pas trop tuer le marché.
Aussi,
Parce que,
oui.
mine de rien, on était à chaque fois entre 6 et 7 épisodes par semaine. C'était beaucoup.
Avec aussi des titres très secondaires, des trucs genre des titres jeunesse, des choses comme ça qui sortaient aussi, hein.
Oui, tout à fait. Derrière, c'était assez lourd comme sortie. Mais bon, c'est dommage parce que c'est un bon récit mais qui se tient bien, c'est-à-dire qu'on aurait voulu plus, mais derrière ça fonctionne pas mal, c'est bien fichu et ouais, Williamson, ça aurait été bien. Après, Williamson est amené à faire beaucoup de grandes choses chez DC, il est en train de relancer Damian Wayne actuellement, il a été annoncé qu'après le one-shot, il y a Infinite Frontier 0, il va faire une mini-série Infinite Frontier 1 à 6, donc il est amené à avoir des responsabilités, donc on va le revoir.
Ouais.
Donc ça, c'est une bonne chose aussi.
Ensuite, on saute en 2050. On a la mini-série Kara Zor-El Superwoman, pardon. Décidément, j'ai du mal, hein, après Aquaman, maintenant Superman, où j'oublie de féminiser. Donc, ce titre, tu m'as dit que tu l'as lu, que c'était pas mémorable, hein, que voilà.
Ça part d'une bonne idée. Ça part d'une bonne idée. L'idée, c'est qu'en fait, Supergirl devenue Superwoman ouvre une colonie sur la Lune pour tous les exilés, pour tous les gens paumés, pour tous ceux qui ont perdu leur foyer, pour tous ceux qui ont été chassés de leur foyer. Et c'est une bonne idée parce que, mine de rien, on dit toujours oui, Superman, il a perdu son monde, mais il l'a pas connu, en fait, véritablement. Alors que Kara, elle a connu son monde, c'est une vraie exilée, c'est une vraie paumée. Et du coup, c'était une bonne idée. Le problème, c'est que Marguerite Bennett et Marguerite Sauvage sont allés au bout de leur idée, au bout de leur démarche graphique, avec un graphisme très surprenant, mais adapté à un récit très lyrique, très poétique, qui passe à côté de son idée de base. Alors, elles ont le mérite d'être allées au bout de leur idée. Le problème, c'est qu'en fait, c'est juste pas vraiment passionnant et en fait, ça aurait été tellement mieux de faire autre chose de cette idée-là. C'est frustrant, mais bon, elles sont allées au bout de leur truc et ça, c'est une bonne chose. Mais sinon, en fait, lisez pas ça, hein, c'est quand même super chiant.
D'accord. Mais on a un autre titre sur une super-héroïne avec une équipe d'ailleurs féminine à la barre qui est pas mal du tout, moi qui m'a beaucoup marqué, qui est une de mes lectures de cet event et qui était, il faut le dire, l'un des titres sinon limite avec le Next Batman, le titre le plus attendu. C'est le titre Wonder Woman qui présente Yara Flor qui va devenir la nouvelle Wonder Girl dans l'univers DC.
Oui, c'est très bien. C'est Joel Jones qui a dessiné un peu de Batman, qui a dessiné et surtout scénarisé beaucoup de numéros Catwoman récemment. Ces deux numéros, c'est très bien, c'est très beau,
En
c'est...
plus, je me permets de rajouter que les couleurs sont de Jordi Belair, grande coloriste de talent, hein, qui a vraiment émergé ces 10 dernières années.
Oui, c'est vraiment très bien. Là, on est vraiment un peu comme le Future State Teen Titan. C'est un avant-goût, c'est un prélude. C'est une petite aventure de Yara Flor dans le futur où elle est Wonder Woman. Le premier numéro permet de voir son caractère. C'est un peu une peste, mais une peste qu'on aime bien, qu'on aime bien en fait. Et le deuxième numéro montre son cœur sous la carapace, parce qu'en fait, elle va au Tartare pour récupérer quelque chose. C'est une petite aventure, mais ça permet en fait de bien dresser le portrait du personnage. C'est magnifique. Joël Jaune s'est super inspiré au niveau graphique. Et franchement, c'est très sympa. C'est un bel avant-goût. Moi, j'ai beaucoup aimé. Je suis très, très, très enthousiaste pour la série Wonder Girl grâce à ça.
Ouais, et puis alors ici, on joue sur l'idée qu'on a une Amazone qui vient d'Amérique du Sud parce qu'elle est liée au fleuve Amazone. C'est pas adressé directement, mais en faisant un peu ma petite recherche, Je ne suis pas trop étonné de découvrir que d'autres auteurs avaient déjà eu l'idée avant. Donc, encore une fois, ceux qui râlent en disant que ça sort de nulle part, bah non. Il y a déjà eu des Amazones de l'Amazonie, à savoir la forêt amazonienne, déjà sur Terre 1, dès Wonder Woman 314 en 84. Donc, on se
Ah oui.
raccroche ou on réutilise de vieilles idées qu'on modernise. C'est pas mal du tout au niveau du scénario. Au niveau du dessin, alors déjà de un, le dessin en soi est magnifique. Et même au niveau du design, je pense au juge des enfers, à ce genre de choses, on est un peu quand même sur une représentation que n'auraient pas renié Brian Azzarello et Cliff Chiang dans leur relecture de Wonder Woman au moment des New 52, je trouve.
Oui, tout à fait. Après, derrière, ça avait été aussi une prolongation de ce qu'avait fait Greg Rucka à
Aussi.
l'époque, son premier run, où on voyait en fait que derrière, bah, certains dieux chopent un peu les habitudes vestimentaires contemporaines. Mais vraiment, c'est vraiment très sympa et vraiment très bien.
Des idées qu'on retrouve dans d'autres œuvres comme American Gods,
Ouais.
qui de Neil Gaiman, dont le roman date de bien avant. Donc ouais.
Oui, tout à fait. Franchement, c'est sympa et c'est pas trop ambitieux, ça fonctionne juste bien. Bah, tout l'inverse de l'autre mini-série, la dernière de 2050, Superman versus Imperius Lex.
Oh là là, oh là là. La seule qui n'est pas finie à ce jour, il y a eu du retard, je sais pas pourquoi. Et bon, on va. C'est pas terrible, hein. On voit un Superman âgée, une Lois Lane âgée qui maintenant bosse pour les Planètes Unies. D'ailleurs, ça, les Planètes Unies, donc les fameuses Planètes Unies de la Légion des super-héros qui sont créées.
Dans Superman
Ouais.
de Bendis, ouais.
Voilà. Donc, elles ont été créées et puis on joue un peu avec ça là. Ils affrontent Lex Luthor qui est le chef de la planète Lexor. Ça aussi, le concept de Lexor, il y a déjà eu des Lexor City, des planètes Lexor. On recycle des vieux concepts. Je comprends rien quand je lis ce truc, vraiment.
On va pas se mentir, j'ai détesté. J'ai trouvé ça lourd, long, très long, pas du tout drôle.
Oui, c'est censé être ironique, avec Lex Luthor qui se croit être le plus intelligent qui se fait rouler, et vraiment, c'est lourd, quoi. Alors, il reste un numéro à l'heure
Non,
qu'il
c'est
est,
lourdingue.
mais bon.
Ouais, mais ça sortira jamais ce machin. Mais
D'accord.
ça sortira jamais, je pense que ça sortira jamais. En plus, ce qui est dommage, c'est que c'est sur la couverture, hein, donc c'est pas un spoiler. Mais Lex Luthor a une sorte de masque sur la tête et des fausses mains, mais c'est jamais expliqué.
Ah, il reste un numéro, mon cher. Il reste un numéro.
Oui, ça sortira jamais.
Mais pourquoi ça?
Mais parce que Future State, on est passé. C'est le monde d'avant, monsieur Future State.
Eh ben écoute, tu sais quoi? Laissons tomber cette mini sans importance, passons au monde bien après. On fait encore un bond en 2070, on est quand même bien plus tard, avec Superman Wonder Woman, un titre que tous les deux on a aimé. C'est un peu un team-up à l'ancienne, hein. Là, c'est vraiment une histoire en deux parties, où on voit d'ailleurs
Ouais.
des dieux de l'Amazonie qui doivent faire une course. Il y a une histoire de soleil, créature solaire qui va attaquer la Terre, et Superman est mis à mal, Wonder Woman arrive à la rescousse. C'est un bon team-up à l'ancienne.
Oui, bon, on la remercie encore Grant Morrison, hein, parce que là on retrouve un personnage qu'on a vu dans All-Star Superman, hein, donc c'est quand même pas mal. C'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa alors que j'avais pas aimé le premier numéro, mais le deuxième rattrape bien les choses. Je ne sais plus qui est le scénariste qui gère Superman ou Wonder Woman, mais en fait il s'est grandement inspiré du Superman coulement parfait de d'All-Star Superman. Quand je dis coulement parfait, c'est que dans All-Star Superman, on a un Superman qui peut tout faire, qui est quasiment omniscient, mais en fait il est tellement cool et tellement zen et tellement détaché et sympa que ouais ok c'est cool, c'est juste bien et c'est juste sympa. Bah là, John c'est ça aussi, enfin l'auteur essaye de faire ça. Ça marche pas trop bien dans le premier numéro, ça marche mieux dans le deuxième, et les deux ensemble ça fonctionne du coup bien. C'est un team-up à l'ancienne, ça permet de montrer les caractères de chacun, avec John qui est le tenant de l'ordre établi, qui est complètement au service de sa population, alors que Yara Flor est un peu une peste qui supporte pas les manœuvres des grandes entreprises ou ce genre de choses. Là aussi, je pense qu'on aura beaucoup de choses par rapport à la destruction de la forêt amazonienne. Donc ouais, c'est sympa, et puis mine de rien, le fait d'avoir des dieux de l'Amérique du Sud, bah ça change un peu quand même, hein. Ça change un peu en
Et on se
fait.
rend compte qu'ils sont aussi insupportables que les dieux gréco-romains.
Bah y a pas de raison,
On
y a pas
change
de
de
raison.
dieu, mais bon, voilà, le comportement reste le même. Et puis c'est très Silver Age, je pense notamment à ce que doit faire Superman. Yara l'aide à faire un truc dans la forteresse de solitude, et aussi le décor de la forteresse. On est dans une ambiance très Silver Age, c'est très plaisant. Mais alors, est-ce que la suite sera aussi plaisante? Les bons sont quand même de plus en plus. On va plus loin dans le temps, puisque là on arrive carrément à l'an 3000.
Ah là, on tape dans le dur, hein.
Là on arrive à l'an 3000
Là, on
avec
tape
La
dans le dur.
Légion des super-héros et House of L. Alors commençons par La Légion. Donc Bendis qui nous a fait 12 numéros très sympas sur La Légion des super-héros. Ici, clôture tout ça. Alors, ça ne doit pas se passer en 3000 exactement, hein. Ça doit être un peu après, puisqu'ils ont vieilli, les membres. Je ne sais plus si dans la mini en elle-même, la date est donnée.
Non, la date n'est pas donnée. Pour moi, c'est 3001 ou 2. C'est très frustrant. C'est très frustrant parce qu'en fait, c'est un diptyque très sombre où en fait la Légion est dissoute et essaie de se remettre après un événement dramatique. C'est très précipité. Alors, on dit toujours que Bendis, c'est le roi de la décompression, mais là, franchement, il essaye de bien faire, mais même deux numéros, c'est pas assez. Et c'est frustrant parce qu'en fait, moi, j'ai beaucoup aimé sa Légion. Sincèrement, j'avais plus de 20 ans que je lis des comics. J'ai essayé la Légion plusieurs fois. J'ai essayé la Légion chez Semic, j'ai pas accroché. J'ai essayé la Légion des Trois Mondes de Geoff Jones. Ok, j'ai trouvé ça cool sur le principe, mais j'étais pas dedans. Je suis en train de finir The Great Darkness Saga. Et
Ah.
franchement, c'est sympa.
Oh là là, j'en reparlerai tout à la fin de l'émission.
Franchement, c'est sympa. Mais par contre, la Légion de Bendy, j'ai trouvé ça cool. Complètement dans l'air du temps, de 2020-2021. Et je trouve ça super frustrant parce qu'on sent bien ici que c'est son adieu, son au revoir, sa fin. Et c'est dommage parce qu'en fait, moi, j'aurais bien aimé en voir plus. Après, la saga en elle-même, elle est précipitée. On sent qu'il y a beaucoup de choses qui auraient dû intervenir dans la série. Parce que moi, j'y ai vu, enfin, a posteriori, j'ai vu des racines dans sa série de tout ça. Ça se lit bien, mais c'est frustrant. Ça aurait été bien d'en voir plus.
Ouais, alors c'est dommage, hein, la Légion sur de Bendis, j'aurais aimé en voir plus. C'est vraiment un gâchis si ça ne se poursuit pas. Et à côté de ça, on a House of L, donc les descendants de la maison L. Alors j'ai du mal à voir comment ça se concorde avec la Légion, si c'est censé être la même Légion que celle de Bendis, quoi, puisqu'on a quand même des descendants de Superman. Avec cette idée que Superman est peut-être un mythe. Ça qui est aussi intéressant dans Future State, une autre sous-intrigue, c'est Superman qui disparaît visiblement à certains moments de l'histoire, qui réapparaît à d'autres. Parce que, à l'instar de All-Star Superman, Superman en fait est immortel. Le soleil le rend immortel. Et donc il change d'apparence avec le temps. Et comme il vit littéralement des millions d'années. Il y a des périodes où il disparaît, hein, où il vit sa vie, je sais pas, il est ailleurs, et d'autres où il réapparaît. Ça joue beaucoup sur ça, sur un peu l'attente du retour du héros solaire. Il y a un peu, on dit souvent, hein, que Superman il est inspiré des héros solaires, de Mitra et tout. Donc un peu ces héros qui meurent et qui renaissent avec le soleil. J'y ai vu un petit peu de ça pour faire un peu de mythologie comparée en mousse de comptoir. Hein. J'ai vu peut-être un petit peu de ça là-dedans.
Oui, tu as raison.
Voilà, on renoue toujours avec le mythe du héros solaire, du dieu solaire. Et en plus, il y a aussi l'intrigue du Red King ici, avec quelque chose d'intéressant. Un descendant notamment de Superman aux origines un peu surprenantes. Hein, on s'attend pas à lire un truc comme ça dans un récit Superman. C'est dommage là par contre que ça ait été un one shot, qu'on n'en ait pas plus quand même. J'espère que on ait au fil du temps, pourquoi pas de temps en temps, des one shots ou des toutes petites mini-séries sur la dynastie Superman. Encore une idée très creusée par Morrison dans All-Star Superman, mais qui date encore une fois du Silver Age. Voilà, il y a une porte ouverte vers des choses qu'on aimerait bien voir pour différents regards jetés sur les futurs possibles de DC.
C'est pas impossible, il va y avoir une série et dérivée de Future State qui se concentrera d'abord sur Gotham et Redwood, mais c'est pas interdit. Après, House of L, ouais, c'est un super beau one-shot. Frustrant parce qu'on aimerait voir plus de cette dynastie, parce que derrière Philip Kennedy Johnson, encore le même qu'avant, survole des personnages qui sont intéressants, un descendant pacifiste, une descendante qui est à moitié kryptonienne, à moitié tamaranéenne, la race de Starfire, donc oui, ça fait mal quand même. Et c'est franchement bien. Alors oui, j'aurais voulu en voir plus, mais le one shot, il fonctionne tellement bien, avec un final tellement pur, en fait, dans son évocation de Superman. En fait, quand j'avais fait ma critique, j'avais été content de trouver le mot. En fait, c'est juste, c'est de la justesse dans l'évocation de Superman. C'est juste ce qu'il faut, en fait. C'est juste ça. Donc oui, faut lire les gens, hein. Enfin, c'est vraiment les trucs à lire, hein. Lisez pas The Next Batman, hein. Ça vaut pas le coup.
Et ça donne très envie donc de lire ce que Philip Kennedy Johnson va nous faire sur son titre. Il reprend Superman ou Action ou les deux, je ne sais.
Les
Les deux.
deux, les
Donc
deux.
si ça se trouve, peut-être que dans ce titre-là, on aura des voyages dans le temps, vu qu'en plus Superman, John et tout sont liés à la Légion, ils sont habitués à faire des voyages dans le temps, c'est pas impossible. Et on continue de nous approcher de la fin de la timeline, tout comme de la fin de notre émission, avec l'antépénultième titre de la sélection. Swamp Thing qui se passe en 4500, que je n'ai malheureusement pas eu le temps de lire, et pourtant il me faisait envie ce titre.
C'est pas mal, c'est sympa. Ramvi n'arrive pas à bien tenir sa saga en deux numéros. Ça déborde, ça aurait été mieux autrement, mais c'est pas mal. La mini-série est frustrante parce qu'en fait, ça commence et ça finit sur une poésie mélancolique très sombre mais très belle sur Swamp Thing qui erre dans un monde apocalyptique. À un moment, ça vire un peu aux bonnes vieilles obsessions super-héroïques avec un vieux méchant qui revient, qui a un plan, ha, pour se venger. Et c'est un peu parasité alors que franchement, c'est pas mal. Ça aurait été, même en 4, ça aurait été bien. En 2. Ouais, c'est juste frustrant parce qu'on aurait aimé voir plus. Après, c'est, on va dire, un avant-goût de la mini-série actuelle que Ramvi et le dessinateur lancent actuellement sur Swamp Thing. Donc après, c'est pas très grave parce que les deux auteurs se retrouvent. Mais pour cette saga-là qui se termine là, c'est un peu frustrant.
D'accord, moi elle me donnait envie parce que graphiquement ça avait l'air superbe.
Oui, c'est très joli.
C'est alors attends, c'est qui? C'est Mike Perkins au dessin.
Oui, voilà.
Il s'ancre lui-même, il a l'air du feu de Dieu.
Ah oui, c'est très joli.
On continue d'avancer encore et toujours dans le temps. Je me suis moi-même perdu dans la chronologie, je n'arrive plus à remettre la main dessus.
On est en 82 020.
20. Alors, précisément, 82 020. Et c'est pas une date qui nous mène nulle part, puisqu'on arrive au 832e siècle, je sais, 830e siècle, voilà. Alors je sais plus maintenant. Bref, le siècle où se passent les récits DC One Millions. Rappelez-vous, encore une fois, la Justice League de Grant Morrison, on y revient toujours. Et donc, donc on arrive dans le siècle où on devrait avoir les titres 1 million des séries DC si elles continuaient mensuellement indéfiniment. Et on découvre ce que devient Black Adam dans ce futur. On voit aussi la Justice League de cette ère-là, avec notamment Wonder Woman qui est littéralement devenue une statue. On renvoie à ses premières origines où elle a été créée dans de la glaise.
C'est pas Wonder Woman qui est devenue une statue, hein. C'est une Wonder Woman qui reprend son
Oui.
origine. Et ça, en fait, c'est clairement, encore une fois, merci Grant Morrison, c'est en fait de DC One Million le crossover de Grant Morrison quand on était sur le titre JLA.
Oui, c'est ce que j'ai dit avant, pour ça que j'ai dit merci
Ah,
Grant
pardon.
Morrison.
Pardon,
C'est
pardon.
pas grave. On est perdu, on se perd là dans ces timelines et tout. Par moment, tu dois sans doute vibrer et te retrouver sur une autre terre. Donc.
Je vibre à 2,21 gigawatts, Marty.
Ah ben. Donc, on a là un récit que j'ai beaucoup aimé, qui continue l'intrigue commencée avec Flash,
Bah, il l'a fini,
et
il l'a
qui l'a
fini.
fini, oui, qui. Et donc, bon, évidemment, comme vous en doutez, c'est aussi en rapport avec Shazam. On va pas dire grand-chose, si ce n'est que c'est beau, c'est lyrique. La fin semble mener à quelque chose qui pourrait se poursuivre, j'ai l'impression.
Ça sera la fin qui aura le plus de répercussions dans le présent. Je pense que c'est la fin qui détermine la nouvelle série Justice League, où Black Adam apparaît également. C'est très sympa, c'est très beau, ça a le mérite de bien finir une saga, ça rend hommage à DC One Million, c'est un peu précipité, c'est sympa, c'est joli. C'est Fernando Passarine qui a signé la fin de la série Hawkman, inédite en français mais très bonne. Bon, par contre, ça se voit que Dwayne Johnson va jouer bientôt The Rock, va bientôt jouer, pardon, The Rock, ça fait des années qu'il le fait, mais ça se voit
Il a
qu'il
même
va bientôt.
arrêté de jouer The Rock. Maintenant, il est juste Dwayne Johnson maintenant.
C'est vrai. Donc ça se voit qu'il va bientôt jouer Black Adam, parce qu'en fait, Fernando Passarine dessine Black Adam avec le visage de Dwayne Johnson.
D'ailleurs, juste pour l'anecdote, il va y avoir une série sur la genèse de The Rock. Pour vous dire qu'on est en plein dans la The Rock exploitation. Et encore un nouveau Jumanji. On n'a pas fini de bouffer du Dwayne Johnson. Par contre, nous. On commence aussi à arriver sur la fin de notre repas Future State. On fait un immense bond dans le temps vers la fin des temps. On ne sait pas quand c'est.
Là maintenant à
Oui,
dire les
oui.
dates.
La fin des temps avec Immortal Wonder Woman, qui n'est pas toute seule à la fin des temps. Hein. Ça nous donne une très belle vision de ce que peut être la fin de l'univers DC. Et c'est splendide, dans tous les sens du terme. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais ouais.
Oui, c'est magnifique. Alors, j'ai été un peu moins embarqué par le scénario. En fait, j'étais beaucoup déçu de la fin du 1 parce que le début du premier numéro est très beau. On est encore sur une poésie mélancolique de la fin des temps, du personnage seul qui fait le bilan, etc. Et d'un coup, ça retourne un peu sur du super-héroïque pif paf pouf parce que Diana se rend compte qu'il y a d'autres personnages qui ont survécu et qui se tapent encore dessus. Bon, c'est vite expédié au début du 2 et on retourne sur cette poésie mélancolique et c'est bien, donc c'est sympa. Il y a juste cet intermède qui est un peu embêtant, mais par contre graphiquement c'est une tuerie, c'est magnifique.
Ouais, c'est Jen Bartel qui donc dessine, encre et colorise le tout sur un scénario de Becky Cloonan et de Michael Conrad.
qui d'ailleurs reprennent la série Wonder Woman, dont leur premier numéro est sorti récemment et il est très bien.
Super, il faudra que j'aille jeter un œil là-dessus. On revient aux fondamentaux, hein, vraiment. On retrouve des icônes d'ici sur la fin. On vous en dit pas plus, mais allez voir ce récit qui clôt donc cette sélection de. Vous voyez, il y a de tout. Hein. Il y a du très bon, du moyen, de l'agréable, du à éviter. Vraiment, c'est pas mal ce Future State. Globalement, hein, on lance pas mal de choses. Et Future State, c'est pas tout à fait fini, puisque le Next Batman a déjà droit à une nouvelle mini-série, The Next Batman Second Son. Donc, on a aussi, non seulement on a des titres comme Suicide Squad, Crime Syndicate et autres, Teen Titans Academy, qui vont reprendre des idées, où clairement, Future State, c'est un peu une possibilité d'évolution pour ces séries-là, mais on a le futur en soi de Future State qui continuera à travers des mini-séries par-ci par-là.
Oui, tout à fait. Donc il est probable, c'est comme à un moment on avait eu longtemps une série Batman Beyond sur le dessin animé, ouais. et ça s'était poursuivi comme ça. Future State, le bilan global, derrière, après, c'est essentiellement des récits très classiques. Hein. C'est beaucoup de choses déjà vues, si on enlève un peu le décorum de voir comment chacun a évolué. C'est souvent des fonds classiques, mais efficaces. C'est ce que je disais hein, au début, en disant que DC a utilisé Future State un peu comme bouffée d'air, en revenant un peu sur ce qu'il savait faire, en reprenant le canevas de convergence, on est resté sur des récits classiques qui révolutionnent rien, mais qui font bien le job très souvent, et qui ont souvent de bonnes petites surprises. Donc moi j'ai un avis général positif, je me suis bien amusé, j'ai trouvé que c'était plutôt cool, c'était une bonne période. Il y a peut-être eu un peu trop de titres parfois quand même, mine de rien, 6 à 7 épisodes par semaine pendant 8 semaines, ça fait beaucoup, oui. Surtout avec des numéros doubles ou triples. Mais il y avait une ambiance générale qui est quand même assez sympa. Et ce petit jeu de piste de savoir comment chaque personnage va évoluer, 10, 15, 20, 80 000 ans dans le futur, c'est un peu sympa quand même.
Ouais, et puis à la différence de Convergence ou de certains des one-shots de Future End, où on avait la mini principale et plein de one-shots sur les différents titres en cours alors, là on a l'impression que à peu près tout le monde a envie d'être là. Même s'ils échouent parfois à raconter ce qu'ils racontent, ils ont quand même l'air d'avoir envie de le raconter, et on a beaucoup de dessinateurs super bien inspirés.
Oui.
C'est une bonne petite friandise à se mettre sous la dent, surtout quand, comme toi et moi, on aime bien avoir les récits sur des terres parallèles ou dans des futurs possibles.
Moi j'adore, c'est pour ça que j'ai été complètement à fond dedans. Et je trouve que ouais, franchement, c'était sympa. Et j'en attendais pas tant que ça, et finalement j'ai été bien pris et bien chopé là-dedans. Donc ouais, j'ai un avis assez positif, et c'est assez sympa. Après, derrière, ça empêche pas que ça reste un machin, que ça reste assez bordélique, que le cœur du truc c'était quand même Gotham, et c'est foiré, faut le dire, c'est foiré. C'est pas illisible, mais c'est foiré. Et en plus, derrière, t'as toutes des annexes qui fonctionnent pas bien. Maintenant, je pense qu'on peut passer au One Shot Generations.
Oui, c'est ce que j'allais dire, parce que là, on dit quand même que globalement, on a bien aimé Generation. Alors, en gros, on va pas vous raconter hein, mais toute l'intrigue, mais Dan Jurgens, on a l'impression qu'il reprend ses fonds d'idées des années 90, de Zero Hour et ces trucs-là. On a une équipe de personnages de la Légion jusqu'au Batman des années 30, en passant par Steel, Kamandi ou Starfire, qui sont recrutés. Alors il y a quelque chose de très bizarre dans le pré-one shot, c'est que Steel il est recruté je crois spécifiquement en 93, Starfire spécifiquement je sais plus c'est 80 ou 83, Batman dans les années 30. Alors clairement ils vont se retrouver disséminés sur différentes planètes à différentes époques. Superboy et Steel par exemple vont être sur la Thanagar préhistorique. Un groupe de personnages sera sur Krypton avant que Krypton explose. C'est d'ailleurs à peu près la seule partie intéressante de tout ce récit quoi. Alors voilà, rapidement, c'est nul, c'est pas très inspiré, le dessin est pas top, et ça se termine, alors on spoil quand même la révélation, cette aventure, si ça paraît un peu bizarre, notamment au niveau du recrutement des personnages avec des dates, c'est qu'on est sur le linéarverse, c'est donc une terre où Batman et Superman apparaissent en 38-39, et ce sont toujours les mêmes Batman et Superman en 2020. En fait, c'est une terre où les personnages vieillissent différemment. Il y a des gens qui vieillissent normalement, d'autres qui vieillissent pas. Enfin, c'est très 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 chelou. C'est un concept... En gros...
Ça n'a aucun sens. Ça n'a juste aucun sens.
En gros, il y a une terre où toutes les histoires du Golden Age à aujourd'hui sont à peu près arrivées. Donc Batman et Superman auraient été dans la JSA et différentes JLA sans doute sur cette terre. On ne sait pas si c'est censé être la nouvelle terre d'ici ou pas. C'est incompréhensible.
Non, en plus on risque de le revoir bientôt parce que la série Superman Batman, le numéro 16, qui est donc une nouvelle orientation, va montrer les Superman et Batman originaux.
D'accord.
Enfin, ça n'a aucun sens. Sans spoiler Doomsday Clock, à la fin, en fait, on nous indique que s'il y a eu des changements temporels, s'il y a eu des reboots, etc., c'est parce qu'en fait, l'univers DC est un métaverse qui réagit, en fait, qui réagit aux grands mouvements cosmiques et qui influe ensuite les autres.
Avec Superman qui est lié à tout ça.
Voilà, qui est le pivot de tout ça. C'est une explication qui vaut ce qu'elle vaut, mais bon, ça fait le job. Ça permettait un peu de dire aussi que le premier de Superman de 1938, il est toujours là, mais il a évolué par lui-même, etc. Et du coup, ses évolutions ont influé en avant et en arrière. Là, avec le linéarverse, on comprend rien, c'est un machin nouveau, alors qu'il n'y avait pas besoin, en fait. Donc, et puis c'est illisible. Moi, j'ai eu l'impression de revenir à l'époque où je découvrais Zero Hour en semi-qui et que j'avais, je devais avoir 13-14 ans, je comprenais rien, je trouvais ça inutilement compliqué. Et puis c'est mal fichu, c'est mal écrit, c'est mal dessiné, c'est à oublier, et c'est vraiment tout ça pour ça. Et en fait, et ça ne fait que complexifier ce qui était déjà pas clair. C'est un peu le souci parfois avec DC qui me donne l'impression, et je dis bien me donne parce que je sais que beaucoup de gens sont pas d'accord avec moi, mais DC me donne l'impression de passer plus de temps à expliquer sa continuité qu'à la construire. À un moment, les gens, faudrait peut-être juste penser à raconter des histoires, en fait. Genre Future State, ils se sont lancés, ils ont inventé des histoires, et c'était cool, et ça, c'était sympa. Après, derrière, tout n'est pas perdu, parce que le one-shot Infinite Frontier Zero est très bien, lui.
On termine vraiment là-dessus. Donc, c'est le one shot de conclusion qui est un peu lié à Future State, mais pas trop. Il y a quelques mentions hein, de Future State. On va pas vous dévoiler ce qui se passe dedans. C'est le one shot, comme il est de bon ton chez Marvel comme chez DC, hein, quand il y a un relaunch. Alors que le relaunch qui est, peut être juste créatif, on relance pas forcément tous les titres au numéro 1. Mais donc voilà, on nous montre un peu hein, des aperçus de ce qui nous attend prochainement dans l'univers DC. On y parle notamment de Wally West et de Flash aussi dans ce numéro-là, qui donne plutôt une lueur d'espoir d'ailleurs à Wally, bien plus que ce qu'on a pu voir dans sa mini-série Future State. Je te remercie beaucoup Ben, hein, j'espère que tu as pris autant plaisir que moi à faire cette émission encore une fois ensemble.
Bah tout à fait, c'était un grand plaisir. Moi j'ai beaucoup aimé Future State, je suis content de pouvoir en parler. Je suis content derrière que ça c'est une initiative qui a fonctionné et qui est un peu auto-contenue. C'est-à-dire que je pense qu'on verra pas forcément beaucoup énormément de choses dans les années à venir de Future State, mais on pourra y revenir pour lire des récits souvent assez sympas. Et ça c'est quand même assez cool. Quand Future State a été annoncé, tout le monde se dit ça va être naze, etc. Et moi le premier, je disais pff, ça va être nul, etc. Et en fait non. Non, en fait, il y a beaucoup de bonnes choses et ça a un bon parfum quand on s'y immerge et je pense que derrière, ça mérite qu'on y jette un œil.
Merci beaucoup pour ce super mot de la fin. On n'a pas encore de nouvelles de la part d'Urban sur comment ça va être publié. Est-ce qu'ils vont reprendre les TP américains? Est-ce qu'ils feront juste une sélection? On verra ça en temps et en heure, hein. Ça finira par être annoncé.
Oui.
Ouais. Alors si vous aimez les récits futuristes, moi je vous invite vraiment à lire la Great Darkness Saga dont tu parlais, que Urban a ressorti il y a quelque temps. Superbe récit de la Légion. C'est sûr que c'est un peu confondant qu'on ne connaît pas la Légion. En plus, il y a des intrigues secondaires qui s'y terminent, d'autres qui commencent. On n'aura pas a priori le début ou la fin. Urban n'a c'est pas dans ses plans pour l'instant d'éditer plus de vieilles Légions, mais vraiment, jetez-y un œil. C'est superbe, hein, vraiment, ça tient la dragée haute par rapport aux Uncanny X-Men et New Teen Titans qui sortent à la même époque, qui sont généralement montrés comme les grands titres. Bah, finalement, du point de vue du style, de l'écriture, du dessin, vraiment, ce récit de. Paul Levitz et Gis Giffen, hein, c'est vraiment génial. Ben, merci encore une fois de ta participation et où peut-on te retrouver?
On peut me retrouver sur Top Comics, également sur le forum Sanctuary et Buzz Comics, mais essentiellement sur Top Comics, où je fais des articles, des tops, et où en fait j'ai tenu un point hebdomadaire Future State. C'est pour ça que j'étais très, très informé du nombre de séries qui sortaient, parce qu'en fait chaque semaine, chacune des 8 semaines de Future State, il y a eu un point hebdomadaire, généralement le surlendemain du jour des sorties, où en fait je vous faisais un point précis sur chaque épisode, sans trop spoiler. En fait, je disais les auteurs concernés, le pitch, les personnages, mon avis, un point fort et un point faible. Donc derrière, ça peut se retrouver facilement. On vous donnera le lien et derrière vous pourrez un peu voir en détail ce dont Marty et moi on a parlé.
Tu es vraiment le monsieur Future State français, en fait.
Tout à fait, Marty. D'ailleurs, il va falloir que je retourne dans le futur bientôt.
Bien sûr, oui, je vais te libérer. D'ailleurs, oui, alors tu parles du Forum Sanctuary, on est tous les deux dessus. On a pas mal parlé de Future State aussi là-bas, série par série. Donc, je vous invite à y jeter un œil. Merci encore une fois de ta présence. Je mettrai les liens vers tes différents articles sur Top Comics, évidemment, dans le billet accompagnant cette émission. Nous, comme toujours, vous pouvez nous retrouver sur Facebook et Twitter. Vous pourrez nous écrire à contact@comicsoffice.com. J'espère que vous avez pu découvrir nos dernières émissions, à savoir la suite du Comics Run sur Spider-Man Brand New Day et notre nouvelle émission Comic Start où on vous parle de, en gros, nos premiers amours comics, hein, comment on a commencé les comics, pourquoi. On parle de plein de choses qui sont liées de près ou de loin à ça. C'est évidemment aussi pour nous une excuse pour parler de plein de choses. Ben, j'espère t'inviter un jour dans cette émission, hein, mais je pense que...
Avec grand plaisir, j'ai écouté récemment celle que vous avez faite, elle est vraiment très sympa. Et oui, oui, avec grand plaisir que je viendrai à une telle émission. On parlera de Heroes Reborn, ça va être super.
Ça va être génial. Sur ce, merci à tous de votre écoute. Réagissez sur cet épisode s'il vous a plu ou pour nous dire ce dont vous n'avez pas été Future State. Et à très bientôt. Et d'ici là, lisez plein de très bons comics sur le futur ou sur toute période que vous aimez. Tu peux dire au revoir, hein?
Au revoir, nom de Zeus.
Si tu es prêt, on va commencer. Donc
Moi, je suis
je
prêt.
vais d'ailleurs essayer d'incorporer ta petite idée d'intro. Ça promet.
Allez.
Alors, il est de coutume sur Audacity, pour que je galère pas trop à synchroniser les pistes, je dis 1, 2,
Ouais.
3, et quand je dis 3, on dit top, d'accord? Comme ça, je
OK.
synchronise. Bon, bref. Ok?
OK.
Alors, 1, 2, 3, top.
Top.
Bon, on n'est pas du tout synchro. C'est pas grave, je me débrouillerai. Bon, alors.
Si tu veux, on fait 1, 2, 3 ensemble.
Voilà, on fait 1, 2, 3 ensemble. Alors, je fais 1 et tu me suis à partir du 2.
Ok,
1,
ok.
1,
2,
2,
1,
3.
3, top.
Top!
Eh, on y était presque là!
Allez, dernière fois et sinon, tant pis, je me débrouille.
Ok, vas-y, vas-y.
1, 2,
1, 2,
3.
3,
Top!
top. J'ai eu la fin, j'ai eu la fin de ton top.
Ah, tu m'entends pas bien? Ça coupe par moment?
Non, non, mais on était synchro sur la fin de ton top.
Oh, moi j'avais pas l'impression. Si ça se trouve, en plus, on a une demi-seconde de décalage. C'est génial! Raison de plus pour faire une
Ok.
émission courte. Le fou qui
Ok.
rêve de faire une émission courte. Allez, on est parti. Retour vers le futur. Enfin, vers le passé du futur. Bref.
Non, nous sommes de retour du futur.
Oh! Ouais, bah, quel retour, hein. Ouais. Allez.